forever. NBA now and forever.
Et à tout dans ce nouvel épisode de Forever. Je suis Vladimir, votre humble serviteur que vous retrouvez tous les mercredis à l'animation du podcast qui traite l'actualité sans langue de bois, mais surtout avec beaucoup de mauvaise foi, comme d'habitude. Aujourd'hui, nous avons affaire à un effectif XXL. Hein. On se retrouve un petit peu plus que d'habitude hein, et je vais vous faire la présentation de suite de mes compères de cette semaine. Notre premier protagoniste est le seul cowboy encore debout hein, pour ce début de playoff, en espérant pour lui qu'il ne rejoigne pas trop vite Ranger Trivette. Hein. Je ne vous ferai pas la référence. Comment tu vas, Lucas ?
Ça va, en pleine forme. On arbore les couleurs aujourd'hui. Les playoffs sont bientôt là et l'objectif final pour Luca et les Mavericks, bien évidemment.
Voilà. On laisse les gamins vivre leurs rêves. Notre second larron est multitâche. Il est à la fois gourou de l'intelligence émotionnelle, il est diététicien, il est même fermier lorsqu'il s'agit de penser à la survie de son équipe. Comment tu vas, Damas ?
Diététicien, oh là là là. Juste à cause d'un live. Bon, messieurs, bonjour, ravi d'être parmi vous. Forever pour toujours, on va se régaler. Vive les Pacers.
Mon troisième est un adepte du storytelling hein, que vous pouvez suivre hein, d'ailleurs sur son compte TikTok ou même sur Instagram, hein, aka le cas. Et si on se met un peu dans la peau de Damas, le diététicien, on pourrait même l'appeler le spécial cas. Comment tu vas, Kevin?
Bah écoute, ça va très bien. Un petit peu de pression avant le match du play-in des Lakers ce soir, mais tonton LeBron devrait faire le job.
Ah, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et pour conclure cette line-up, on va se mettre... Alors, dans la peau de quelqu'un qui, à cette heure-ci, est dans le futur hein, par rapport à nous, vu qu'il a quelques heures d'avance sur le décalage horaire, et je vous propose de la faire à la locale.
Izinkan saya memperkenalkan Rafi yang sedikit jet lagian. Walau bagaimanapun, dia tidak akan gagal untuk mengingatkan anda bahwa Chris Middleton mahir dalam bola keranjang walaupun dari Singapura.
Voilà. Donc voilà, je vous présente Rafik avec un petit décalage horaire. Comment tu vas, Rafik?
Bah ça va. Enfin, là il n'est pas encore trop tard donc ça va, et très impatient de revoir Chris Middleton jouer au basket. Et aussi ça va être on va dire mes premières PO où je vais regarder à des heures convenables hein, chez moi. Et ce sera les premiers matchs seront à 7h30, 8h du matin, et ça se terminera vers midi 13h.
De quoi te faire des bons petits déjeuners autour de ces playoffs, hein. Je vous laisserai bien sûr faire la traduction hein, de l'audio. de l'audio.
Moi, j'attendais que le Middleton.
Voilà. Ouais. Voilà, t'as entendu Chris Middleton et c'était bon. Très bien, très bien. Bah, écoutez, messieurs, je vous propose qu'on part directement sur les actualités en bref. Bon, joueur de la semaine. Bon, là pour le coup, hein, une nouvelle fois, pas trop de surprises. Hein. Pour la conférence Ouest, on a de nouveau Nikola Jokic. Qui est donc meilleur joueur de la semaine avec une moyenne de 26,5 points, 11,5 rebonds, 7,8 passes pour un bilan de 3 victoires, 1 défaite. Et pour la conférence Ouest, nous avons Jalen Brunson qui a une semaine XXL aussi, semaine à 38,5 points, 3,5 rebonds, 7,5 passes et un bilan parfait de 4-0. Logique ?
Voilà, rien Logique. À dire. Oui. Rien à dire.
Logique.
Voilà. Sur les deux côtés.
Voilà, et je pense qu'on a...
Ouais, Rafi. Ces deux concurrents au titre de MVP hein, qui terminent très très fort leur saison, hein, ça compte hein, sur les votes hein, quand on termine fort. Hein, c'est la dernière impression qu'on a du joueur. Et par exemple, ça peut coûter aussi à des joueurs comme Shai. Shai qui a moins bien fini et franchement... Bah, ça ne peut que être bien pour ces deux joueurs de finir en tant que meilleur joueur de la semaine.
Ouais, je
et
sais
on
pas.
Est pas étonnant,
ouais.
En tout cas.
Ouais, sans compter que pour Jalen Brunson, c'est ça, son quatrième titre de meilleur joueur de la semaine. C'était clairement inattendu. On savait que c'était un joueur sur une très très bonne pente. Il l'a prouvé en étant performant sur bon nombre de semaines, hein, parce qu'il aurait pu le gagner avec avec un plus gros chiffre, hein, ce joueur de la semaine, justement, et plus que 4, hein, parce qu'il a eu des performances vraiment exceptionnelles. Alors, ça n'a pas été le cas sur toute l'année, mais qu'il soit dans le classement des 10 premiers du trophée d'MVP, il n'y a absolument rien à dire. C'est, franchement, New York a une véritable arme offensive, capable de shooter à 3 points comme à mi-distance, en pénétration. Il défend très bien. Le dernier match des Bulls du dimanche dernier était plus qu'incisif en retournant, en étant le joueur majeur pour retourner la situation avec DiVincenzo, un très cher Rafik. Donc, Jalen Brunson, très sérieux.
Les meilleurs joueurs de Villanova, hein, contrairement à l'autre là, qui a de la Brooklyn, Michael Bridges.
Oh, c'est trop.
C'est d'ailleurs. C'est une cinquième roue max.
Non, t'es un malade. Mais quand même.
Allez, 4, c'est bien, 4. Ah, mais on sait bien d'être le 4ème meilleur joueur d'un effectif.
Ah, dur. Oui.
Bon, bah, c'était le cas à Phoenix, hein, il était 3. Hein.
On reviendra peut-être sur le cas de Michael Bridges par la suite. Lucas, Kevin, vous souhaitez peut-être rebondir ?
Ouais, juste pour dire que Jalen Brunson en fait représente la saison des Knicks, tout simplement. S'ils finissent deuxième à l'Est, c'est pas pour rien. Ils ont, du début à la fin, ils ont montré qu'ils avaient réussi à établir un vrai collectif autour d'un leader qui monte crescendo, entre guillemets, qui a montré au début et qui était un peu en collaboration avec Rundle, qui était un peu plus dans son ombre et qui, depuis la blessure, bon, malheureusement pour Rundle, mais j'ai envie de dire quand même heureusement pour New York, parce que depuis que Rundle est blessé, je trouve qu'ils montrent beaucoup plus belles choses, notamment avec McBride, qui a pu vous montrer en sortie de banc que derrière Brunson, il avait vraiment de quoi faire. Et même Josh Hart qui était un peu en dessous en début de saison et qui au final a fait une super saison. Donc non, franchement, il y a rien à dire. Pour moi, les Knicks sont une des équipes qui ont le mieux marché en soi, hein, que ce soit collectif ou individuel avec Brunson qui représente bien l'équipe.
Ah ouais, même en termes de défense collective, les Knicks à un moment c'était 90 points. C'était vraiment 80 points. On a vu une session au mois de mars où les Knicks n'encaissent pas de points.
Avec Philadelphie, ouais.
Ah ouais, exactement, avec Philly. Et au rebond, il ferme la porte. Josh Hart, c'est un poste 3 potentiel aujourd'hui. Il peut défendre sur du 2, du 3 ou du 4, c'est vrai. Mais mon rebond, il est exceptionnel. Je crois que c'est le meilleur rebondeur poste 2, poste 3 de la Ligue. Hein. Et ça fait comme ça depuis bon nombre de temps. Depuis le début de sa carrière, il a toujours été très performant au rebond, très combatif. Il a clairement, comme tu l'as bien dit, Lucas, grandi à 3 points. Donc, c'est tout bénef pour les Knicks. Maintenant, ben, faut savoir ce qui va se passer en play-off. Quoi. Maintenant, les choses vont se resserrer. Moi, je tiens responsable les Bucks. Hein. C'est-à-dire leur attitude face au match d'Orlando.
Tranquille.
C'est tout.
Tranquille, messieurs. On va peut-être en parler un petit peu justement tout à l'heure des Bucks. Lucas, je te laisse peut-être donner un peu ton ressenti aussi sur ces deux titres de joueurs de la semaine.
Ouais, moi je l'ai donné. Vas-y, Kevin.
Pardon, Kevin. Autant. Désolé.
Jalen Brunson, je pense que vous en avez déjà pas mal parlé. Hein. De toute façon, maintenant, on va l'attendre. Ouais. Pour désosser les Sixers et après Milwaukee en playoff.
Ah oui, oui.
Et
oui.
Pour Jokic, titre de la semaine mérité, on va dire. Mais c'est vrai que quand tu regardes le bilan, il y a ce petit 3-1 avec cette petite défaite face aux Spurs. Mm. Et moi, c'est ce que j'ai envie de voir, c'est est-ce qu'ils vont regretter d'avoir laissé passer ce match et en même temps la première place. On sait que ça peut jouer sur ta partie de tableau, etc. Donc, j'espère pour les Nuggets, pour leurs ambitions de titre, qu'ils ne vont pas regretter cette petite défaite face aux Spurs de Wemby.
Non, c'est sûr que ça peut faire sa différence, mais en tout cas, moi, je terminerai par dire que la logique est plutôt respectée. Et nous avons donc le dernier joueur de la semaine, dont celui qui sera nommé MVP, n'en déplaise à Lucas.
Non, scandaleux, mais bon.
On passe à la seconde actualité. Petit fait qui est quand même à noter. Au total, nous avons seulement que 17 joueurs qui ont fait la totalité des 82 matchs sur cette saison. Alors, je vous en fais très rapidement la liste. Nous avons Harrison Barnes, Reggie Jackson, Jonas Valanciunas, Bobby Portis, Buddy Hield, Domantas Sabonis, John Young, Mikal Bridges. D'ailleurs, sixième année consécutive pour Mikal Bridges. Il a raté aucun match en carrière. Nickel, Alexander Walker, Obi Toppin, Paul Reed, Peyton Pritchard, Jalen Green, Austin Reeves, Chet Holmgren, Christian Brown et Kayson Wallace. Qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs ?
Il y a des noms qu'on retrouve déjà régulièrement, comme tu l'as dit avec Mikal Bridges, hein, qui est une vraie pile Duracell, le mec. Il ne se blesse pas, physiquement il est toujours là, donc c'est tout à son actif et pour l'équipe qui le recrute. Maintenant, ça c'est un autre sujet concernant le rang dans la hiérarchie des joueurs. Je ne vais pas évoquer le cas graphique, mais quand tu as affaire à un mec qui est quand même dans un 5 de départ et qui est toujours présent, et je pense aussi à Harrison Barnes, qui est d'une régularité dans ce domaine-là. Sabonis aussi, surtout que Sabonis, il nous habitue à des doubles-doubles. Et ça, depuis les 2-3 années arrivées en carrière dans la Ligue, Sabonis, c'est du 10 points dire bon en régularité. Donc ça, c'est clairement intéressant pour n'importe quelle équipe. En fait, on a affaire à des joueurs viables. Ce n'est pas ceux qui font que 82 matchs pour faire 5 points de moyenne et 6 rebonds. Oui. Non, non, non. On a affaire à des mecs qui ont une certaine régularité, que ce soit au shoot, qui ont un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Shoot, rebond, scoring à 3 points. Voilà. Ils apportent une valeur ajoutée qui leur permet de se dire, ouais, tu peux prétendre à jouer 82 matchs. Donc, Reggie Jackson, t'as dit ?
Ouais.
Après, parmi les joueurs, t'as des joueurs qui sont remplaçants, qui jouent. Voilà, comme Brown de Nuggets.
Oui, ou Peyton Pritchard.
Il ne starte jamais. Oui, Peyton Pritchard. Il ne starte jamais.
Après, t'as un peu tout type de profil. Hein. Tu peux avoir, on va dire, des tauliers dans leur équipe. Hein. Bah, par exemple, Harrison Barnes ou même plus ou moins... Qu'il l'est. Bah, Bobby Portis, malgré tout, n'en déplaise à Rafik aussi avec ses fulgurances saison. Mais ce sont des joueurs, en effet,
Portis, il n'y a rien à dire. Hein. En saison régulière, il n'y a rien à dire, Bobby Portis. Mais son problème, c'est en play-off. C'est un mec qui, dont son niveau décroît énormément en play-off. Il se fait trop manger à l'énergie en play-off. Parce qu'en plus, c'est paradoxal. Parce que sa qualité première, c'est d'être un energizer, mais dès qu'il arrive en playoff, il se fait bouffer par l'énergie des autres.
Ouais, bon, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, on va aborder là très prochainement le sujet Bucks. Lucas, Kevin.
Moi, je vais juste dire, t'as des joueurs en fait qui ont aussi à prouver dans une liste comme ça, et notamment les joueurs fragiles qu'on pensait fragiles. Et du coup, Chet, pour moi, rentre dans cette liste parce que Chet. Vu la saison de percée où on se disait attention, si c'est un mec un peu à la Anthony Davis qui se blesse, d'ailleurs Anthony Davis, faut le dire, quand même une grosse saison où il a joué, je crois,
bien sûr.
78,
14,
je crois. Un truc comme ça.
Enfin, ouais. Sa meilleure saison en match,
70 enfin.
Enfin, voilà, et c'est bien que Chet prouve dès maintenant que quand même il y a quand même une stabilité là-dessus, qu'il n'est pas ultra fragile et que tu peux t'appuyer sur un gars comme ça pour les prochaines saisons. Donc, voilà.
Ouais, clairement. Ouais, clairement, c'est ce que j'avais en tête surtout. Ouais, Alors, on peut mettre Wemby dans le lot, même s'il ne fait pas partie des joueurs qui ont joué 82 matchs. Mais pareil, avant le début de la saison, on avait vraiment cette interrogation sur les deux rookies avec des physiques de licorne. On en a vu déjà d'autres passer dans la ligue. Bah, par exemple, je pense à Porzingis qui a eu beaucoup de problèmes de blessures tout au long de sa carrière. Pouvoir commencer pour Chet Holmgren et Victor Wembanyama avec un tel niveau de jeu et une telle régularité, et plus tout ce qu'ils font également qui est très appréciable pour le collectif, je pense que c'est des exemples un peu à suivre pour les rookies futurs.
Mais sans compter que Chet Holmgren va même progresser physiquement. Hein. Il ne va pas rester avec ce même modèle-là à la troisième année. Bon, je pense qu'il sera toujours avec la même morphologie qu'on voit, mais son ossature musculaire va automatiquement se hausser parce qu'il va avoir plus d'expérience, il va avoir la rudesse même des coups. On sait qu'un sportif, quoi qu'il arrive, dans les matchs, quel que soit le sport qu'on pratique, il a un souvenir, il a une mémoire, le muscle a une mémoire des chocs. Donc, tôt ou tard, il va gagner en robustesse face justement à la rudesse de la saison régulière qui s'étend sur 4 mois et demi. Et au fur et à mesure du temps, il n'y a que du progrès qui peut attendre du côté du Thunder avec Chet Holmgren.
Ouais.
En tout cas, ça fait plaisir de voir des gens qui prennent quand même leur rôle jusqu'au bout avec les 82 matchs au compteur pour cette saison.
Donc oui.
En parlant de présence, la transition est toute faite. Giannis Antetokounmpo qui est très incertain pour le début de la série, donc de leur série de premier tour à venir. Pour rappel, hein, donc le 9 avril. Alors c'est là peut-être le plus inquiétant, c'est que bah il se blesse, mais une blessure sans contact. Au niveau du mollet, bon, déjà les premiers bilans médicaux sont quand même rassurants. Il n'y a pas de signes, on va dire, de blessures plus ou moins significatives. En tout cas, le tendon d'Achille a l'air d'être épargné. Par contre, ça peut rappeler de mauvais souvenirs, hein, si vous vous rappelez notamment de Kevin Durant avec le run des Warriors en 2019. C'est d'abord le mollet qu'il se fait avant de terminer avec le tendon d'Achille. Alors, comment interpréter justement un peu cette blessure, surtout que là, elle est sans contact. J'aimerais bien entendre Rafik pour le coup sur le sujet.
Bah après, en fait, avec Giannis, hein, c'est compliqué de, on va dire, de se projeter parce qu'il a une capacité de récupération quand même très au-dessus de la moyenne. Hein. On se rappelle ce qu'il a eu en 2021 quand son hyperextension du genou, le mec limite sa jambe, elle s'est pliée de l'autre côté. Le mec, il est revenu deux semaines après en finale NBA et il a fait une série où il a fait trois matchs à plus de 40 points. Donc vraiment, on ne sait pas trop avec Giannis. Il a une très bonne capacité de récupération et je pense que en vrai, faut pas se presser à le mettre à tout prix au Game 1. Game 1 à la maison, on peut gagner, je pense, sans Giannis et on le fait revenir tranquillement en Game 2. Pour moi, il n'y a pas d'urgence à le mettre directement au Game 1. On sait que Milwaukee, sous Doc Rivers, c'est un bilan négatif. Mais ouais, après aussi, Indiana en deuxième partie de saison, c'est aussi un bilan plutôt ouais, pas si positif que ça. Ils avaient commencé très fort. Tyrese Haliburton, après, depuis sa blessure, c'est plus le même Tyrese Haliburton qu'on a vu sur les 30 premiers games.
Absolument. Absolument.
Et donc, pour moi, pas de hâte. Et je pense qu'il reviendra au Game 2.
Ben, pour suivre tes propos, Rafik, tu as bien fait d'évoquer la mémoire des blessures de Giannis avec ses retours, notamment sur l'année 21. Il a déjà eu des pépins physiques où il est toujours revenu. C'est une blessure qui est délicate pour revenir à la question de Vladimir, parce qu'elle est sans contact, elle est sur le mollet et ça peut s'étendre dans le temps. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont à prendre en considération. Et dans la récupération des blessures, messieurs, vous le savez très bien, on va automatiquement prendre en considération l'hygiène des joueurs. Parce que ta faculté de récupération musculaire va toujours dépendre de ton hygiène de vie, en grande partie. Et quand on connaît le sérieux, le professionnalisme de Giannis Antetokounmpo, il est encore jeune aussi, ça c'est un point qui est à prendre en compte dans la faculté de récupération des situations de convalescence, on peut clairement lui faire confiance. Et comme l'a bien dit Rafik, les Bucks peuvent bien l'emporter face aux Pacers. Je dis objectivement, hein, bien que je souhaite le contraire, bien entendu. mais il y a un joueur qu'il faudra forcément prendre en considération, c'est Damian Lillard. On l'a fait venir pour ce genre de rencontre. On l'a fait venir pour la période printanière. Donc c'est vrai qu'il y a le bilan négatif qui est là. Les Bucks, je pense qu'ils ont la capacité à faire front sans Giannis pour un premier tour de playoff. Il y a en effet Bobby Portis qu'on a évoqué, qui sera forcément lui aussi en première ligne en termes de performance attendue post-season. Les Pacers, ils sont sérieux, notamment avec Pascal Siakam, où j'attends à ce qu'il soit agressif dû à l'absence de Giannis défensivement. Faut y aller, mon frère camerounais.
De toute façon, on abordera le sujet un peu plus en profondeur tout à l'heure, parce qu'en effet, je pense que c'est l'un des premiers tours qu'on attend avec le plus de hâte au vu des antécédents de cette saison où il va y avoir un peu de poudre, je pense. Lucas, Kevin, vous avez peut-être une observation sur cette situation?
Ouais, Giannis, c'est un grand garçon. Hein. Je pense que je pense qu'il arrivera à se remettre. Et puis, dans sa tête, il doit avoir un mindset où c'est les playoffs. Il va revenir très vite, si ce n'est même avant la fin du premier tour, je pense.
Ok.
Bon, après, cette absence au Game 1, ça serait presque une bonne nouvelle en vrai. Moi, franchement, j'ai vu l'action en direct. Le nombre de fois où tu vois ce genre d'action où le mec se blesse tout seul et que derrière, t'apprends que c'est 4, 6 mois opération, ceci, cela. Franchement, les Bucks ont eu un bon gros coup de chat là-dessus. Et comme ça a été dit, faut pas forcer, faut prendre le temps. De toute façon, les Bucks, si t'es pas capable de gagner un ou deux matchs sans lui face aux Pacers, je pense que ça sert à rien de jouer les playoffs du coup. Donc même s'il revient à aller au game 2 ou 3 et qu'il revient à 100%, ça suffira normalement pour peut-être pour les Bucks pour être à 100%.
Bon, on en parlera de toute façon dans quelques instants. Dernière news. Bon, de base, on était censé parler de la prolongation de notre cher Grayson Allen du côté des Phoenix Suns, mais on en parlera quand Phoenix se fera éliminer. Hein. Ça, c'est pas là.
Dans une semaine.
Dans une semaine.
Ça arrive vite. Ça arrive vite. Ça arrive vite, l'ami.
Non, mais vous faites trop les malins. Il faut quand même célébrer un joueur qui a été le plus adroit à 3 points dans cette ligue, qui est aujourd'hui une ligue à tir extérieur. Mais attendez, comment on pouvait mettre ça de côté?
Parce que...
Juste parce... Non. S'il était dans tes Sixers de racaille, là,
non.
On se serait arrêté.
Commence pas. Non, mais parce qu'il y a la liste des 12 joueurs pour les JO côté Team USA qui a été lancé. Voilà, on en parlera de toute façon de Grayson Allen. Donc, ESPN a enfin révélé ce qu'on devrait retrouver du côté de Team USA pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Alors la liste, hein, bon là on a les Avengers, hein, donc c'est Stephen Curry, Kevin Durant, Jason Tatum, Joel Embiid le français, Devin Booker, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Jrue Holiday, Bam Adebayo et Anthony Davis. Pour le moment on en a 11, mais il devrait y en avoir un 12e qui, logiquement, devrait plus ou moins être un certain LeBron James. Bon, pour le moment, ce n'est pas encore définitif.
Oh, le mec.
Oui, pour le coup, il fait le mec. Il fait grave le mec.
Il peut se le permettre aussi.
Voilà.
Il peut se le permettre de faire le mec. Il a 40 000 points en carrière, Rafik.
Ça reste 40 000 points, 11 000 rebonds, 11 000 passes.
Il a le droit.
Donc, les 11 sur 12 pour la liste de sur ces JO, hein, pour rappel, qui évolueront dans la même poule que la Serbie, le Soudan du Sud, hein, coucou Luoldeng, et le vainqueur du tournoi de qualification qui oppose Porto Rico, Bahreïn, la Lituanie, le Mexique, la Côte d'Ivoire et l'Italie. Donc voilà pour cette liste. Est-ce que potentiellement on a mieux que les autres Dream Team? Je pense notamment 92-2008.
Ça se tape, hein. Quand déjà tu vas avoir 3 joueurs du top 15 all-time, dont le GOAT en plus.
Ah, j'aime bien quand tu dis ça.
Non, mais franchement, en fait, tu regardes sur les 12, bah, en fait, c'est le All-Star Game parce que la plupart, ils ont été All-Star cette année, quoi. Donc en fait, bah, juste, ils ont pioché là-dedans. Ils ont fait... un 5 majeur et ils ont pris 7 remplaçants et ça peut être une boucherie. Après, on verra. Mais en tout cas, ça montre les intentions de Team USA à ces Jeux Olympiques de Paris.
Absolument. Et je suis pas loin de penser que ça peut être une dernière peut-être grosse team. Hein. Parce que la génération qui arrive n'est pas pour l'instant au niveau de ce qu'on va voir pour la dernière épopée.
Faut voir parce que t'as... Vas-y, Rafik.
Bah, en fait, moi, je dis, pour moi, c'est parce que tu demandais si c'était comme pour toi comme 92, etc. Et pour moi, c'est pas, par exemple, pour moi, c'est pas comme 92. 92, on a les meilleurs joueurs de la planète dans la même équipe. Aujourd'hui, la NBA, elle est menée par les Européens. Les meilleurs joueurs sont Européens. Et donc, ok, on a les meilleurs joueurs américains dans la même équipe, mais ce ne sont pas les meilleurs joueurs du monde actuellement.
Okay. Exactement. Non, mais je.
C'est pour ça que je vais pas. C'est pour ça, pour moi, elle est là, la différence avec 92. C'est, on a dans les deux cas les meilleurs joueurs américains, sauf que 92 c'était aussi les meilleurs joueurs du monde, et aujourd'hui ce ne sont pas les meilleurs joueurs du monde.
Donc dans ce cas, ils auraient plus, on va dire, l'opportunité de dire bon bah voilà, on sort l'artillerie lourde, histoire de remettre entre guillemets les États-Unis au centre de la carte.
Ouais, sans compter c'est que ça. Ces meilleurs joueurs américains ont tous plus de 34 ans. Hein. Bon, sur un mois de. Ouais. Ouais, sur un mois de compétition, je pense que ça devrait suffire. Hein. C'est pas forcément ça qui est gênant, mais il faut voir dans quelles conditions physiques ils arrivent en France. Mais oui, ce sont pas les meilleurs joueurs de la Ligue actuellement. Et ça, et sans compter qu'ils sont vieux. Donc les petits jeunes là, qui pensent se cacher derrière les trois arbres que sont Kevin Durant, Steph Curry et LeBron James qui fait le mec, Jason Tatum là, Anthony Edwards, c'est eux qu'on va regarder aussi d'un petit œil aussi.
Ouais, non, je me fais pas de soucis, hein, Edwards. Plutôt Tatum, moi je me ferais plus de soucis pour Tatum.
Oui, parce qu'Anthony Edwards, on l'a déjà vu au dernier championnat du monde, il a été très très correct pour pas dire très bon. Hein.
Oui, mais il a quand même perdu.
C'était le meilleur de la team USA, mais oui.
Oui, mais il a quand même perdu, que vous le vouliez ou non, en étant leader.
Oui, attention, bien sûr. Voilà. Après, c'est pas le même effectif non plus.
On est d'accord.
Mais bon.
Ça, il avait quoi, 20 ans, 21 ans
Bah ouais, enfin, il avait une année de moins, on va dire, oui. Donc bon, tranquille.
Après,
quoi.
Moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut tout ça pour faire tomber un seul Slovène, quoi.
Ah, vas-y, toi.
Non, en vrai, pour être sérieux, il y a quand même, bien que ça soit une équipe élite, il n'y a rien à dire, quelques choix, entre guillemets, discutables. Quand on voit que Jalen Brunson n'est pas dans cette équipe, par exemple, que Kawhi n'a pas été cité. Enfin, voilà. Il y a encore... Après, en même temps, entre guillemets, il faut faire un choix, quoi. Te dire, mais par exemple, moi j'aurais mis Jalen Brunson over Jrue Holiday pour faire le compliqué. Mais après, quoi qu'on dise, je pense que cette équipe va à 99% de chances de rouler sur les JO. Et clairement, je vois aucune équipe à l'heure d'aujourd'hui pouvoir rivaliser avec cette équipe. Bien sûr, on peut s'attendre à un exploit d'un Wemby, un exploit de ça peut arriver sur un match. Voilà.
C'est ce qu'on
mais
c'est
sur
ce
le
qu'on
papier,
veut,
c'est oui, c'est on ce qu'on veut, c'est bien sûr, c'est ce qu'on
en
veut.
En finale, le remake.
Mais voilà, mais sur le papier, il n'y a pas de discussion.
Bah, après, je pense que, alors en effet, il peut y avoir des éclats individuels d'adversaires, mais je pense que la densité physique est beaucoup trop importante par rapport à d'autres nations. Alors après, attention, hein, il y a toujours des outsiders qui sont capables aussi de tenir tête. Surtout en ce moment. Mais bon, c'est vrai que je me fais pas trop d'illusions concernant ces équipes-là. Et je pense que oui, les États-Unis risquent de faire un peu une JO 2012 où ils vont rouler sur tout le monde. Bon, on verra bien de toute façon.
Je les conseille quand même, enfin, pour Team USA, avec Grant Hill qui est à la tête, pour rappeler un petit point. Ça serait intéressant pour Team USA à ce que les Warriors, les Lakers sortent vite des playoffs pour la récupération. et je tiens à dire, vu que je déteste ces équipes de l'Ouest là qui se la racontent, si elles sortaient plus tôt, moi ça me gênerait pas, je pense.
Non, bah, et puis il faut rappeler que c'est Steve Kerr qui a la tête. Voilà. Voilà. Bon, bah, voilà pour les actus de cette semaine. Et donc ce que je vous propose, c'est de partir sur le débat de la semaine. Hein. Bon, vous l'avez plus ou moins tous compris de quoi on allait parler, mais je laisse bien sûr notre ami Loris faire cette introduction.
Mesdames et messieurs, nous sommes le 16 avril 2024 et c'est un grand jour dans l'histoire de l'humanité parce qu'après 4 ans d'absence, l'Orlando Magic est de retour en playoff.
La musique. Quoi cette musique?
Orlando Magic, Orlando Magic, Orlando Magic, oh, 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 oh. Ah, ça a commencé. L'émission a commencé là. Pardon, excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Bonjour à tous nos chers auditeurs et bonjour à toute l'équipe Forever. J'espère que vous allez bien et je pense que vous l'aurez deviné, moi ça va super bien. Mais revenez vendredi, il y a moins que ça change.
Et pourquoi vendredi?
Parce que jeudi, il y a l'OM.
Oh, mais...
Pas, moi c'est Maurice et Catch and Shoot, et chaque semaine ou presque, je reviens sur un sujet d'actualité, un coup de cœur ou un coup de gueule. Cette semaine, pas de débat à proprement parler puisqu'on va se projeter sur les playoffs qui arrivent dès demain avec le premier match du Play-in Tournament. Je vous laisserai expliquer le principe, messieurs.
Parce que j'ai la flemme.
En tout cas, je sais pas vous, mais moi je suis excité de ouf, je dirais même plus excité comme une influenceuse dans des toilettes saoudiennes. C'est
oh
genre
mon
niveau.
Dieu.
On a des grosses affiches dès le play-in avec notamment un Sixers Heat à l'Est. Et attention, on n'est peut-être pas à l'abri d'une grosse surprise. Il dit ça, je dis rien. Et cette saison, on a quand même énormément de petits marchés qui ont accédé directement à la post-season. OKC, Minnesota, Orlando, Indiana et Rungis. Quoi, Ginkari, là ?
Pardon ?
Et on a quand même le droit du sang dès le premier tour. Doncic qui retrouve les Clippers, les Suns et Wolves qui concentrent plus de têtes de co au mètre carré qu'à l'Assemblée nationale, c'est dur l'exploit. Lillard et Haliburton qui vont régler le débat entre Rolex et Omega, me posez pas de questions, moi j'y connais rien en voiture. Ou encore le Magic contre les Cavs. Et ouais, on n'est pas tous égaux devant la hype. Dommage que les Hawks ne puissent pas croiser les Knicks parce qu'avec un retour de Triangle Madison Square Garden, je vais pas développer, vous voyez très bien où je veux en venir, bande de couillons. On risque également d'assister à des playoffs, et je parle bien de playoffs, précision importante, sans Steph Curry ni LeBron James. Alors si ça arrive, sachez que ça sera une première depuis la saison 2004-2005. Je me sens très vieux là.
Papi, tu peux me raconter une histoire ?
Est-ce que tu veux écouter la dernière fois que Stéphane Paprika et LeBron James étaient en playoff ? C'était en 2023.
Il y a papi qui parle encore de ces histoires de plombier là.
On rigole, Paprika. Mais si ça arrive, ça marquera un énorme tournant dans la vie de nombreux fans de NBA, plus ou moins jeunes, qui ont connu ces deux lascars à leur prime et toujours au premier plan pendant les joutes estivales. Je suis tristesse. Mais voyons d'abord ce que nous réserve ce play-in, sachant que dans mon bracket, les deux passent. Et je connais bien le panier ballon.
Rendez-vous mardi prochain quand son bracket sera mort semaine 1.
Petit con, va. Mais si vous voulez mon avis, je trouve que c'est pas facile en tout cas de se projeter cette année.
Celtics Nuggets en finale.
Il y a du talent partout, c'est très difficile de faire un choix.
Celtics Nuggets en finale.
Il y a même certaines équipes fassent des upsets de fou.
Celtics Nuggets en finale.
Donc vraiment, si je devais me prononcer,
Celtics Nuggets en finale.
Je dirais Nuggets Celtics en finale.
Petit con, va.
Bref, c'est tout pour moi pour cette semaine. Je vous laisse les previews de ces playoffs. Messieurs, moi je vous quitte, j'ai le train de la hype du Orlando Magic à conduire à quai.
Tchou, tchou.
Orlando Magic, Orlando Magic, Orlando Magic, oh, oh. Pardon. Merci Maurice.
Bravo, bravo.
On va l'avoir dans les...
Quel crack.
C'est un génie. C'est vraiment
c'est le
génie.
Boss.
Aïe. C'est vraiment un fou. Écoutez, messieurs, allez, on va se mouiller un peu. On part sur donc les prédictions pour, alors à la fois le play-in, hein, le play-in, alors à date d'enregistrement qui commencera donc ce soir, hein, vu qu'on enregistre le mardi. Donc, il se peut dès que vous écoutez cet épisode qu'on se soit planté sur pronos. Mais bon, c'est pas grave. Ce sont les aléas du direct. On fait avec. Donc, ce que je vous propose, messieurs, c'est qu'on commence déjà par le play-in. On va commencer par la conférence Est. Déjà, premier match, Philadelphie-Miami. Allez-y, messieurs.
Pour la Miami. Place.
Miami.
Philadelphie.
OK. Philly.
Moi, je vais mettre le hit. Mais un match très intéressant. Mm. Je vais mettre un match vraiment très intéressant. Vous me laissez développer ?
Vas-y.
Ah ouais, parce que je me suis dit, je parle comme ça, bluff, je vous ai même pas posé la question, c'est n'importe quoi.
Vas-y.
Non, je mets le hit devant par mesure d'expérience, dans la mesure où le hit, en effet, s'y connaît déjà sur les formats play-in en étant performant, même si l'an passé, ils avaient perdu le premier match play-in. Hein.
Mm-hmm.
Ils s'étaient inclinés hein, lors de ce premier match, en étant 8e, je crois, en plus à l'Est. Et donc là, je... En fait, il y a une mémoire qui est là sur le fait que le Heat s'en sort souvent plutôt bien face aux Sixers. Et je pense à la période Butler post-season, où il va clairement se mettre en zone. Même s'il y a un point d'interrogation avec Terry Rozier, qui présente quand même des pourcentages assez délicats, mais je compte quand même sur le Heat à pouvoir bloquer Tyrese Maxey, notamment son accès au cercle, où il peut faire très mal. Parce que Maxi, c'est quand même important. Dès qu'il peut avoir accès au cercle, il va commencer à prendre confiance à longue distance et là, il peut buter tout le monde. Donc, comme le Heat est l'une des meilleures défenses, moi, je dis, je compte sur le Heat pour passer. Face aux Sixers qui sont quand même sur une très, très belle envolée.
Eh bien, écoutez, très bien. Vous avez donné un peu vos avis. Alors, moi, je pense... Alors...
Je me demande.
Je pense que pour le coup, en effet, l'expérience va parler et Miami va le gagner ce match face à Philadelphie parce que j'ai juste pas envie que Philadelphie se tape Boston.
C'était méta.
Non, mais je pense que sinon, plus sérieusement, ouais, je pense que Miami, voilà, ils sont habitués à ces rendez-vous un peu de match sec pour jouer justement. Pour jouer quelque chose direct, donc
je pense qu'il y a moyen qu'il passe. Après, je pense que c'est même peut-être limite le match le plus ouvert, parce que je pense que les deux peuvent passer. Il suffit que Joel Embiid soit dans un bon jour et qu'il écrase complètement Bam Adebayo, parce qu'on sait très bien que Bam Adebayo, malheureusement, sur les matchs un peu critiques, c'est toujours un petit peu compliqué encore le concernant. Donc,
Et pas Embiid.
Bah, beaucoup moins quand même Embiid, arrête. Bon, après, sur ce débat-là.
Non, non, mais pas à ce niveau de la compétition. À ce niveau de la compète, Embiid,
c'est trop tôt, c'est trop tôt.
C'est trop tôt.
On faire les demi-finales pour tuer.
Voilà.
Ouais, ça va là.
Non, mais c'est vrai. On voit rarement les Sixers se planter au premier tour. On voit rarement les Sixers se planter au premier tour.
Oui, c'est vrai que la dernière fois qu'ils se sont plantés au premier tour, c'était
2020. 2020. Vous avez pris 4-0 par les Celtics.
Oui, par les Celtics, oui, c'est vrai.
J'avais oublié.
Ouais. En effet. Ok, donc ça marche pour ces. J'en profiterai. Hein, je sortirai aussi les braquettes de chacun pour play-in plus.
Oui, justement, pour ce match-là, sur mon bracket, moi j'ai mis Miami, mais. Enfin, c'est parce que, justement, tout ce truc, on en a parlé, expérience, tout ça, pour moi, Miami va s'imposer, mais c'est difficile. C'est pour ça que je dis Phila, parce que je dis quand même Philadelphie, parce que juste Embiid, c'est tout. Embiid peut tout changer, et c'est là où se joue le match pour moi, c'est comment sera Embiid. Parce qu'il y a eu sa blessure, il y a eu tout ce qu'il y a, le retour, tout ça, il a quand même fait un bon retour. Je pense que s'il est en forme, et bon, en fait, ça, j'ai jugé ça avec sa remise en forme. Pour moi, vu qu'il a fait un bon retour, Philadelphie va être quand même en forme lors de ce premier match. Si Embiid n'est pas encore remis entièrement, c'est pour ça que j'ai mis Miami, parce que de base, je pensais que ça allait être compliqué pour lui. Puis quand il pense, Embiid, avant sa blessure, roulait tellement sur tout le monde. Que tu peux pas prendre en compte la machine qu'il est, en fait. Le rouleau compresseur qui est Joel Embiid. Donc, c'est pour ça que je dis quand même Philadelphie, même si sur mon bracket, j'ai mis quand même Miami qui gagne pour voir un New York Philadelphie. Moi, je veux voir ça.
En fait, c'est ça le truc, c'est que. Tu peux avoir. En fait, quoi qu'il en est, au premier tour, il y aura de belles confrontations parce que c'est soit Boston-Philly ou Boston-Miami, ça va rappeler des souvenirs. Et pareil, alors là, c'est plus pour nous, période Tindoncast, je pense notamment à Rafik et Damaz. Putain, réavoir un New York-Miami.
C'est la bastonnade.
Le sang. Putain.
C'est pas trailer en première ligne qui va clairement être mis en évidence sur ce type de confrontation, mais ça reste quand même très ouvert. Je mets le Heat, mais à 52%, 48%.
Ça joue, vraiment.
Ça joue parce que les Sixers, ils défendent très bien aussi. Ils défendent vraiment bien. Ils ont vraiment fait de très gros points avec Nick Nurse sur ce côté du terrain avec des performances sur la durée. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie confiance sur ce côté-là et le Heat est une des plus mauvaises attaques de la ligue. Heat cette saison est nul pour scorer, mais c'est
Et puis donnée aussi qui est plutôt importante en termes de tendance, Philadelphie c'est 9 victoires d'affilée.
Et ça compte, donc les mecs vont avec une vraie dynamique.
9 victoires d'affilée et c'est en play-in.
Ouais, vas-y toi.
Non mais pour couper Rafik.
Vous êtes vraiment défoncé en fait.
Arrête.
On s'en rend pas compte, mais à l'Est, les 6 à 7 équipes devant, elles ont aussi beaucoup gagné. L'écart, il est conséquent.
Tu dis ça et après, alors que la veille, tu disais que les équipes à l'Est, elles ont des bilans de merde. Faut savoir.
C'est pas moi qui dis ça, c'est Samuel. Tu rigoles ou quoi?
Attends, t'as fait 9 victoires de suite. T'es en play-in alors que les équipes qualifiées directement en play-off, il n'y en a que une qui est au-dessus de 50 victoires.
Mais Rafik, regarde le classement. Regarde le classement par rapport aux Bulls, par rapport à tout le reste qu'il y a derrière. Regarde, l'écart, il est terrible.
L'écart n'est pas si terrible que ça, parce qu'entre la deuxième et la huitième place, il n'y a pas énormément de victoires d'écart. Les bilans sont quand même assez serrés. Il y a juste Boston qui est vraiment devant tout le monde. 14 victoires d'avance sur New York. Mais en vrai, ça se joue dans un mouchoir de poche entre le deuxième et le huitième. Et puis derrière, il faut rappeler quand même que Joel Embiid a été absent 2 mois. Philadelphie était troisième, je crois, quand il se blesse. Bon, c'est descendu jusqu'à la 10e place. Bon, c'est pas non plus n'importe qui est absent. Et puis, il faut quand même rappeler que Embiid a roulé sur toute la ligue en début de saison.
Faut rappeler que les Sixers ont quand même le même bilan que les Pacers et le Magic, qui sont qualifiés directement.
Aussi, ouais, qui n'ont pas le tiebreaker, en effet.
Ils n'ont pas le tiebreaker.
Donc, on est bien content qu'Embiid ne soit pas là, quoi, hein, qu'il ait été absent. Sinon, on n'aurait pas été là, je pense.
Bah, et puis Philly aurait été en effet sur d'autres, je pense aussi sur d'autres sphères en termes de, de résultats. Donc bon bah très bien pour cette première affiche. Deuxième affiche à l'Est, Chicago Atlanta. On s'en fout. Voilà, merci.
Non. Mais pourquoi t'es mauvais comme ça?
Les piou piou.
Pourquoi t'es Atlanta. Mauvais pour ça? Et tu valides Atlanta, Rafik?
Ouais, pour moi Atlanta.
Hein? Pourquoi?
Parce que c'est, pour moi, c'est une équipe plus taillée pour des matchs comme le play-in ou même pour les play-offs que saison régulière. Je m'explique, malgré que ce soit une très mauvaise défense, c'est aussi une équipe qui a des joueurs qui sont capables de prendre des feux sur des matchs décisifs. Je pense à Trae Young, je pense à Bogdanovic, je pense à Murray. Je pense aussi au Hunter hein, qui peut sortir des gros matchs quand c'est décisif. En fait, je trouve que c'est, moi, je pense que cette équipe va sortir au premier tour. Hein. C'est en tout cas, moi, j'ai mis au premier tour et elle va sortir au premier tour. Mais pour moi, c'est vraiment une équipe sur un match, elle peut tabasser tout le monde.
Donc ça veut dire que pour toi, Atlanta potentiellement peut gagner le perdant de Miami Philadelphie.
Ah mais pour moi Atlanta ils vont balafrer les 76ers.
Quelle audace.
Quelle audace. Bon,
c'est mon avis.
Moi, ouais, non, non, mais après...
attendez parce qu'on se rappelle qu'il y a quelques années sur Atlanta a tapé Philly. Sur une série. Les équipes, bien sûr que les effectifs ne sont pas les mêmes, mais quand même, on a Trae Young, on a les mêmes leaders, hein, on a Embiid, Tobias Harris côté Philadelphie. Maintenant, il y a Maxi qui est bien plus fort. Bien et de l'autre côté, tu as Trae Young, qui pour moi aujourd'hui a limite un meilleur effectif qu'il avait en 2021. Donc, ouais, pour moi, sur un match, Atlanta peut tabasser Philadelphie, peut-être pas sur une série, mais sur un match, ils peuvent vraiment les tabasser.
Bah pour suivre tes propos, moi j'estime que les Bulls vont battre les Hawks, parce que le problème c'est que si les Hawks sont dans un bon jour, on va dire en termes de scoring, en termes d'adresse, parce que c'est vraiment une équipe d'adresse les Hawks, ils vivent par leur adresse, oui. Comme tu l'as bien précisé.
Totalement.
C'est que, en effet, leur mauvaise défense, selon moi, fait grandement défaut, même si je pense qu'il y aura quand même un degré de concentration supérieur, hein, en se disant le play-in est là, donc quand même qu'il faut qu'on fasse le taf, sinon la saison elle est finie. Mais en fait, les Hawks présentent trop de lacunes dans ce domaine. Donc le problème pour gagner, c'est qu'il faut qu'ils fassent une très grosse adresse et en même temps qu'ils soient performants défensivement. Ce qui n'a jamais été le cas. Bon, tu me diras, les Bulls offensivement, c'est pas top non plus, mais il y a une donnée qui est importante, c'est que les Bulls au rebond sont très intéressants.
Non,
que ce soit ouf. Et en plus, comme tu l'as dit, c'est Quentin qui a parlé. Non, j'en ouf.
Il est où, Quentin?
N'importe quoi.
Il est en train de dézipper son fichier encore.
Pardon, laissez-moi. Je pensais à lui. Je ne sais pas pourquoi j'avais sa photo en tête. Et puis j'ai dit son nom. Oui, comme tu l'as dit, Lucas, mais ils sont en défense avec un homme que moi j'ai envie de mettre en évidence, c'est Alex Caruso. Ça n'engage que toi. Mais ouais, moi je trouve que Caruso peut très bien ralentir Murray, il a le physique pour, et bien entendu Trae Young, où je compte sur lui, et avec la présence au rebond des Bulls pour pouvoir battre ces oiseaux à la con là, qui restent dans leur nid là.
Faut savoir, soit il lock Murray, soit il lock Trae Young. Il va pas lock Murray, Trae Young, Bogdanovic, Hunter.
Les Hawks ne lookent personne derrière de l'autre côté.
Non, tu parlais de Caruso et t'as dit que Caruso il va lock Murray et après t'as dit et aussi Trae Young. Non, il va pas lock deux joueurs.
Lock deux joueurs, mais en fait comme c'est une équipe déjà de base qui joue beaucoup avec du pick and roll, donc automatiquement tu auras du switch qui va se faire très régulièrement.
Ça veut dire par exemple si Caruso défend
Kobe White,
ils vont forcer. Bah non, mais c'est du pick and roll 1-5 qu'ils font attentat en général contre.
Ouais, voilà, donc Vucevic.
Ils vont pousser. Oui, mais ça veut dire que c'est Vucevic qui va se retrouver sur Trae Young à la fin du rôle.
Bah, il y aura des configurations comme ça, oui.
S'ils sont intelligents chez Chicago,
ils vont pas laisser faire ça.
Caruso, il sera pas genre 48 minutes sur un Trae Young ou sur un DeJounte Murray.
Je pense
qu'il y aura, pour éviter justement qu'Atlanta puisse s'adapter, je pense que Caruso va vraiment se répartir la charge, peut-être avec Coby White, hein, pour le coup. Bon, Coby White, c'est autre chose en termes de défense, mais Caruso, je pense qu'il peut vraiment harceler Trae Young à certains temps, sur des temps forts, et après, ouais, derrière, switcher sur Murray, même pourquoi pas sur Bogdanovic lorsqu'il sera sur le terrain. Bon, là, en effet, là, il y a toute une stratégie à avoir. Moi, perso, je vois pas dans quel monde, et pourtant, Dieu sait que je les mettais très bas en début de saison, mais je vois pas dans quel monde Chicago ne passe pas. En tout cas, ne remporte pas match face à Atlanta. En fait, ils ont aussi la dynamique avec eux. Ils font une bonne fin de saison.
Ouais, je pense. Ouais.
Ils font une bonne fin de saison. Ils arrivent, pareil, hein, le dernier match que j'ai en tête, c'est face à New York.
Match. Ils sont pas là de le prendre. Hein. Ils sont
match
pas
là de le prendre, extrêmement hein. sérieux. Donc, je pense que ça peut vraiment, ils peuvent continuer dans cette lancée-là. Moi, c'est pour ça que je les vois passer, en effet, ce premier match. Bon, après, le deuxième, ce sera autre chose, hein, contre Miami ou Philadelphie. Ouais. Là, ce sera un autre débat.
Je peux donner un dernier point. C'est pas pour contredire, hein, le fait que vous dites Chicago. Hein, c'est pas pour ça, mais il y a un joueur à Atlanta qui est revenu. Et moi, franchement, je ne connais pas vraiment, je vais dire la vérité, mais
Gay.
Quand j'ai vu ses stats, comment ?
Gay ?
Non, bah, le mec, là, Jalen Johnson, le mec, il fait du 17,9 rebonds de moyenne. Moi, je ne le connaissais pas, ce joueur. Et apparemment, il est solide.
Il est revenu,
et je pense que c'est un joueur qui... Bon, je ne le connais pas, mais peut-être que vous allez me le dire, peut-être que c'est un bon défenseur.
Ah oui. Ouais. Ouais, en fait, il a les qualités athlétiques qui vont pour lui, en fait. C'est-à-dire que il a un bounce de fou et il défend très bien sur l'homme. Et c'est vrai qu'il a repris des minutes là sur les derniers matchs. Il a pas joué, enfin il joue et généralement il joue pas le dernier quart-temps pour laisser au repos. Mais c'est vrai que si lui revient à son parce qu'au milieu de saison, lui c'était quelqu'un. Hein. Je me rappelle des mixtapes où il lâchait des tomards, c'était violent.
Avec de bons chiffres.
Ah oui, oui.
Il fait des matchs où il prend des 16-15 rebonds. Hein.
Hein ouais, ouais, ouais. Exactement. C'est un bon rebondeur pour un 3-4, mais pour terminer avec les Bulls, vaut mieux pour eux qu'ils puissent remporter cette rencontre, parce que cet été, ça risque d'avoir un petit vent, le windy. Hein. Le vrai vent de Chicago va souffler, à mon avis, sur pas mal de mecs. Billy Donovan, je pense qu'à mon avis, on arrive vers la fin. Et DeMar DeRozan, bien que lui aussi fasse une saison, encore une fois, avec beaucoup de minutes aussi. Je crois que c'est le joueur qui a le plus de minutes, hein, Vlad. Hein
Bah, c'est DeMar... en tout cas
là, ouais. Ouais, mais il peut pas... un joueur de scrim ne peut pas lutter pour des games de play. Qu'est-ce qu'il fout là-bas?
Écoute, hein, c'est comme ça, hein, c'est la vie, hein, j'ai envie de te dire.
Bah, du coup... En vrai, les Hawks, ouais. Juste pour peut-être clore le truc. Les Hawks, c'est vraiment tout sur un match. C'est-à-dire que si tu les mets sur une série face à Chicago, je les vois perdre.
Mm-hmm.
Mais sur un match comme ça, franchement, à tout moment, ils peuvent exploser. Et moi, je me rappelle d'un début de saison de Bogdanovic où je voyais meilleur sixième homme tellement il était impressionnant en sortie de banc. Il a lâché des matchs à 40 points et tout. Si lui prend feu, ça peut être incroyable. Trae Young, bon ben voilà, on sait sa capacité en période du printemps où il peut, comme il l'a fait face à Boston, pardon, l'année dernière, il peut prendre un match sur son dos. Franchement, il y a plein de détails comme ça où Atlanta peut sortir du lot et on en parlait justement et je voulais en parler aussi, mais ce Jalen Johnson. Il faut vraiment pas dormir sur lui parce que comme un DeJounte Murray peut sortir de son lot, lui Jalen Johnson peut aussi faire un truc. Moi j'ai une rêve d'un match qu'il a fait, c'était il y a 2 semaines contre Détroit où j'avais regardé un peu ce qu'il avait fait et c'était les stats du coup c'était 28 points, 14 rebonds, 11 passes. Même si c'est Détroit en face, pour un mec qui revient de blessure, faut pas dormir dessus. Voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça que pour moi, je disais du coup Atlanta qui passe face à Chicago, mais c'est vraiment parce qu'il donnerait tout sur le match. Par contre, il se ferait froisser par le perdant du match d'après.
Alors, du coup, pour faire les sortants là les sortants du play-in du côté de l'Est. Alors, juste pour récapituler pour vous messieurs, qui serait place 7 et place 8
Heat 7, Sixers 8.
OK.
9 Bulls, 10 les Hawks.
Ok, très bien.
Non, mais ça, c'est... moi, c'est Heat 7, Atlanta 8.
Ok.
Rafik, vraiment.
Les choix.
Oh, le culot.
C'est mon choix et j'ai déjà argumenté. J'ai dit que Atlanta peut bosser Philadelphie sur un game.
Le choix de l'exotisme.
Regarde où il est dans le monde aujourd'hui.
Le choix de l'exotisme aurait été que genre Atlanta bat une équipe comme Philly sur 7 games.
Wow, mais non,
sur un game, non mais sur un game, c'est. Non, mais... c'est...
ne te justifie pas.
Bogdanovic, il est en feu. Et Trae Young, il est en feu, mais Philadelphie se fait froisser.
Bon, très bien. Kevin, Lucas.
Vas-y, Kevin.
Moi, je suis le seul, du coup, à mettre les Sixers qui remportent le match de play-in et donc 7e. Et derrière, Miami qui tabasse celui qui sort comme les Hawks.
Ok.
Et du coup, moi, sur mon bracket, j'ai mis Philadelphie 7, Miami 8. Et du coup, après, ça serait... Hawks et Chicago.
Ok, très bien. Bon, pour moi, ce sera Miami qui sortira en 7 et Philadelphie en 8, avec Chicago en 9 et Atlanta en 10. Allez, on passe à l'Ouest pour le play-in avant d'attaquer, ou à moins que vous souhaitiez faire directement les premiers tours à l'Est.
On enchaîne, vaut mieux.
Ok,
ouais.
Okay. Alors très bien. Alors déjà, les deux autres affiches, Cleveland-Orlando.
Orlando passe.
Ouais.
Alors, moi je veux les scores là par contre.
Moi je veux 0. Je vais mettre un 4-2. Parce que si à 4-3, les Cavs vont l'emporter dans l'Ohio pour le match 7. Donc vaut mieux pour le Magic gagnant en 6 matchs.
4-2.
Je suis d'accord, 4-2 aussi.
4-1. Personnellement.
4-1 pour qui?
La tendance va pour
Orlando. 4-1 Orlando.
Personne ne voit les Cavs quoi.
Non mais en vrai, mais alors qu'en vrai, les Cavs sont censés battre. Mais en vrai, les Cavs sont censés battre le Magic, les gars.
Bah ouais.
Quand on regarde
La fin de saison des Cavs, ça.
Non mais parce qu'ils ont fait les mecs. Ils ont fait les mecs. Ouais, bluff, on a laissé couler des matchs. Arrêtez de mytho. On n'est pas des bolos, nous. C'est menteur, là.
Il n'y a pas que ça. Depuis après le All-Star Game, ils étaient top 2 à l'Est et depuis, c'est la descente aux enfers. Tu as JB Bickerstaff qui a dit que leur équipe, elle était épuisée physiquement parce qu'il y a eu beaucoup de blessures, etc. Donc, ça a tiré fort aussi. Et ils n'ont jamais réussi à retrouver l'alchimie qu'ils avaient trouvée justement avant le All-Star Game. Et je trouve que c'est une équipe qui est quatrième. Mais c'est encore une fois dû à une conférence Est où il y a eu pas mal de blessures, etc., qui sont intervenues. Mais sinon, les Cavs, clairement, la deuxième partie de saison, là, c'est presque logique, en fait, de mettre le Magic vainqueur, j'ai l'impression.
Même si le Magic, je l'aimais gagnant, c'est vrai, mais ils ont patiné aussi pour finir. C'était pas facile offensivement. Tu sentais que c'était un peu... Mais je l'aimais quand même gagnant.
Bon, écoutez, je vais aller un petit peu à contresens. Bon, pour moi, ça va en 7. Pour moi, la série, elle va en 7. Ouh. Et Cleveland gagne la série, à domicile, je pense.
Si ça va en 7, ouais, je pense que c'est les Cavs qui le prennent. C'est pour ça, le 4-2, c'est la chance pour le Magic là, sur le match 6, genre de plier la série. Sinon, après, si tu reviens par contre derrière dans l'Ohio pour jouer le match 7,
c'est fini.
C'est compliqué.
Alors, par contre, attendez-vous à une putain d'ambiance à la moitié 7 heures.
Blowout si c'est match 7, blowout.
Ouais, ah oui, ok. Ouais. Ok. Bon, ça marche très bien pour cette série. Deuxième série, Milwaukee-Indiana, qu'on a déjà commencé à aborder tout à l'heure. Vos scores, messieurs?
Putain.
Moi, je vais être précis.
4-1 Milwaukee. 4-1 Milwaukee.
Ouh. Ah, pour rappel, Indiana est invaincu face à Milwaukee cette saison.
Moi, je vais être précis. Pour commencer.
Non, ils sont pas invaincus.
Non, je crois que c'est 4-1, je crois.
4-1.
C'est 4-1.
4-1, autant pour moi.
Ouais.
Ok.
Et le match supplémentaire d'une
season tournament.
Tournament,
tout à fait.
Moi, je vais être précis sur le truc. Ça va être un début de série très compliqué pour Milwaukee à domicile.
Mm-hmm.
Où ils perdent 2-0. Retour de Giannis.
2-2. On n'est pas des Mavericks face aux Clippers, souvent. On n'est pas vos bolos, ça. On n'a pas oublié votre série face aux Clippers. Hein.
J'ai encore mieux. 3-0 Indiana, 4-3 Milwaukee.
Arrête.
Moi, je le vois comme ça. C'est un film.
Oh, le divertissement.
Ouais, je te jure.
3-0 Indiana, 4-3 Milwaukee. Et j'ai mis 4-3 Milwaukee sur mon racket.
Tu vois, toi, t'es vraiment... En fait, toi, t'es une start-up de société qui veut lever 150 millions en un coup. T'as pas de business plan. Tu viens dans des salons. Tu parles. Les mecs, ils sont soucis. Ah bon, vous mettez 200 millions, monsieur Lucas. Revenons sur terre. France travaille. Ouais. Et pour moi...
Ce match 4 où il y a 3-0 pour Indiana. Indiana qui peut clôturer les trucs. Damian Lillard qui met un 3 points buzzer beater. Cinquième match, Giannis qui revient et après il déroule. Et puis voilà, après Milo qui passe facilement. Enfin voilà.
Rafik, prends la main, Rafik, s'il te plaît.
Bah après, franchement, là où je suis d'accord avec Lucas, c'est que le scénario 2-0 Indiana à Milwaukee, pour moi, il est possible parce que Milwaukee, tu regardes les dernières playoffs, Milwaukee perd toujours ses premiers matchs, limite c'est les deux premiers matchs. Et c'est vrai que Milwaukee a un peu ce péché mignon de mal commencer les séries et de terminer fort. En 2021, ça, à part la série contre Miami où il y a le sweep, ça perd 2-0 contre les Nets. Non, oui, mais contre les Nets, ça perd 2-0. Ça perd le premier match à domicile contre Atlanta. Et ça perd même 2-1 dans la série contre Atlanta. Non, c'est en tout cas premier match à domicile, le perd contre Atlanta. Ça perd 2-0 contre les Suns. En général, les Bucks, ça commence mal des séries. Donc, ouais, pour moi, c'est un scénario probable. Mais en tout cas, moi, c'est 4-1.
Okay. 4-1 pour. Vas-y, Kevin.
Bah, moi, je suis entre les deux, 4-2. Je pense que les Pacers, c'est pas pour rien qu'ils ont battu 4 fois les Bucks cette saison en régulière. Même si on sait que, bien sûr, quand tu arrives dans les playoffs, c'est pas le même jeu. Mm. Mais début de série compliqué pour le Milwaukee, tu le sens bien. Indiana, je les vois au moins en prendre un chez les Bucks. Après, au moins en prendre un chez eux. Et au final, ça sera une série serrée, mais Milwaukee aura ce petit truc qui fera la différence dans les fins de match, je pense.
Mm. Ouais, et on a intérêt côté Pacers à prendre un match dans le Wisconsin. Si on ne le fait pas,
ça peut dérouler derrière.
Là, le 4-1 de Rafik va sans doute se mettre en action parce qu'on va sans doute prendre un match dans l'Indiana. Mais moi, je mets 4-2. Mm. Je mets 4-2 pour mes PSRs, forcément. Hein, ça
pour
fait
tes PSRs ?
Bah oui. Je mets 4-2, mais vraiment, je suis énervé. Parce qu'on n'a jamais fait les efforts défensifs pour être performant sur ce genre de configuration-là. Putain, on est saucé en gagnant 130 à 128. Ça veut dire quoi ? Et là, quand les Bucks ils vont accélérer sur 5 à 6 minutes défensivement en serrant le boulon, on va se faire boire, sans compter qu'offensivement, on ne peut pas tout le temps compter sur l'adresse. Mmh. Et Rafik l'a dit tout à l'heure, ben, Tyrese, notre tiage zéro, a coulé un petit peu sur la période printanière, voire février. Ce n'était plus les mêmes performances, notamment au niveau du scoring et dans son adresse. Donc, je gagne 4-2. En espérant que défensivement, avec des mecs comme Naismith, comme Obi Toppin, et donc bien entendu Siakam, on soit performant au rebond, dans les rotations, parce que tout ça, on n'a pas fait l'effort. Et il y a un joueur, moi, que j'ai envie de mettre en évidence et que je pense qu'on aime tous ici, c'est CJ McConnell.
Franchement, pour moi, c'est une clé dans la série. Hein. C'est une clé dans la série de CJ McConnell.
Ça change de TJ Parker. Hein. Lui, au moins, c'est une valeur sûre.
Ouais, mais pour terminer 4-2 Indiana et on prend au moins un match là-bas. En fait, le problème, c'est que je ne vois pas les Bucks ne pas gagner dans l'Indiana. Ça m'énerve.
Mmh.
Putain.
Bon, me concernant, pour moi, je vois pas comment Milwaukee ne pourrait pas passer dans cette série. Même s'il n'y a pas Giannis, peut-être sur les matchs 1, voire match 2. Je pense qu'Indiana va faire l'upset au match 1. Mais derrière, enfin. au bout d'un moment, le Oura Basketball, ça a ses limites. Et puis, tu rentres en play-off, quoi. Tu rentres en play-off, c'est bien beau de mettre 140-150 points sur des matchs. Mais au bout d'un moment, quand les défenses, elles commencent à se resserrer, ça commence à devenir très compliqué. Hein, on l'a bien vu sur certaines échéances du côté d'Indiana cette saison. Je pense que voilà, il y aura un partout en sortant du Wisconsin. Mais derrière, je pense que Milwaukee va réussir à... je pense que sortie d'Indiana, je pense qu'il y aura 2-2. Je pense qu'il y aura 2-2, mais que Milwaukee va faire le push nécessaire pour gagner le match 5 chez eux et gagner ensuite à Indiana le match 6. Et avec Giannis Antetokounmpo qui reviendra dans une forme olympique, comme s'il ne s'était rien passé, un peu comme en 2020.
Justement, pour moi, sur cette série, il y aurait deux choses à retenir quand même. C'est que la dernière fois que les Bucks et les Pacers sont affrontés, c'est tout début de l'année. Donc, le dernier match, c'était le 4 janvier. Mm-hmm. Ouais. Donc, période où il faut se rappeler que Tyrese Haliburton était un joueur qui touchait la grâce.
Oui.
Hein, il ne faut pas l'oublier. Qu'il n'est plus ce joueur, malheureusement, avec une fin de saison vraiment compliquée. Et ne pas oublier aussi que les Pacers... ça a été le meilleur match pour Giannis cette année, avec 64 points, où il y a eu la fameuse histoire du ballon et tout ça, on s'en rappelle très bien. Donc, une cible que Giannis aime particulièrement. Ne pas oublier ce truc-là.
Giannis met beaucoup de cartons contre Indiana, il a fait pas mal de matchs à plus de 40 points. Il a une chance qu'il a un autre match à plus de 50 points contre Indiana.
C'est possible. Même s'il est convalescent. Mais il est convalescent pour l'instant. Donc là, en première ligne, c'est Damian Lillard qu'on attend. Il donne au moins autre chose.
Bon, on verra bien pour la suite. On en profitera pour faire le débrief une fois que les séries seront terminées de ce premier tour. Donc du coup, si on va sur le 1-8, alors selon certains, soit Boston-Miami, soit Boston-Atlanta, soit Boston-Philadelphie. allez-y, donnez vos pronostics, messieurs.
Tu peux redire Boston, la série, s'il te plaît, j'ai pas entendu.
Boston contre soit Miami, soit Philadelphie, soit Atlanta, quand on est dans ton cas, Rafik.
Du coup, moi, Boston-Miami, 4-2 Boston.
Oh. Voilà.
Boston-Miami aussi, 4-1.
Ouf.
Ouais.
Boston-Atlanta, 4-0.
Bah ouais, logique.
Ah là, ouais,
logique.
Alors moi j'avais mis le hit 8e. Non, je suis en ouf moi.
Dans l'inverse,
pour, moi, pour moi les Bulls ils sont 8e. Je mets un ticket sur les Bulls en tant que à la 8e place.
Ah. Attends, c'est-à-dire Miami sort pour toi.
Ouais.
Ouh. Ouais. Donc wow. Philadelphie est 7e, donc ils sortent le premier match et ensuite donc Chicago Miami. Alors Chicago gagne contre Atlanta et Chicago gagne contre Miami derrière.
Ouais.
Ouf.
Wow.
C'est courageux hein.
Ouf. I want
faut tenter. Faut tenter. J'estime que les Bulls ont vraiment fait de très bons progrès sur la fin de saison et moi je vois les Bulls battre le Heat pour le dernier match de play-in tournament au premier tour. Ils s'inclineront 4-2 face aux Seas. Les 6 pour moi présentent trop de lacunes.
Ouais. 4-2 Boston Chicago.
Bulls. Ouais.
Laissez
Rafik s'exprimer. Qu'est-ce que tu disais, mon cher Rafik?
Bah vas-y.
Mais
de toute façon,
non, mais c'est toi qui parle. Oh, mais c'est toi que j'attendais.
Mais non, enfin bref. Attends, moi j'ai dit que Atlanta allait taper
les Bulls.
Les Bulls sur un match, les Sixers sur un match. Et oui, les Bulls peuvent taper Miami aussi sur un match, ça je suis d'accord. Mais par contre, les Bulls prennent deux matchs contre Boston. Là, par contre, Damas, doucement.
Non. Pour moi, et je vais même argumenter le pourquoi. Il y a une stratégie qu'a mis en place Billy Donovan et qui a été très porteuse au cours de cette saison, c'est de mettre les deux big men sur le terrain. C'est vrai que Boston a une super adresse à 3 points. Ça, il n'y a pas photo là-dessus, notamment mettant Jason Tatum au poste 4, Jalen Brown. Après, tu as Drew Holiday en 1 et tu as Derek White au poste 2, voire 2-1. Mm-hmm. Mais il y a un point où c'est important en playoff, c'est le rebond. Et les Bulls au rebond, c'est l'une des meilleures équipes de la ligue. Avec Bébé Drummond et Vucevic. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'au niveau des rotations défensives, tu vas te faire boire. Ça, je vous l'accorde. Mais j'insiste sur le fait à ce que les Six aussi ont des trous d'air. Ils ont des trous d'air de ouf aussi. Ils ont des trous d'air,
c'est couillon. Il y a trop d'écart entre ces deux teams,
ouais.
Damas.
Ah, vous avez le droit de le penser. Vous avez peut-être sans doute raison. Mais moi, je mets 4-2. Comme l'an dernier, pour moi, les Six ne présentent pas autant de sécurité. Des fois, pour faire ma match comme il faut.
Voilà. Ah, bon. Alors, attends, tu parles de sécurité pour Boston. Vu que c'est Philadelphie qui est censé sortir 8e. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite revanche de la saison dernière parce qu'il n'y a plus James Harden, du coup ça va plus de choke.
Arrêtez la drogue.
Alors il a moins de choke que Embiid.
En fait, moi je trouve qu'il y a quand même une différence par rapport à la saison dernière du côté de Philly. Alors bon, ça va être le résultat un peu choc, hein, mais pour moi c'est 4-3 Philly. Philly va gagner à Boston sur le match 7. Voilà. Allez, un peu de fiction. Un peu de fiction, ça fait pas de mal non plus. Et pour moi, la clé, alors je parle surtout du côté de Philadelphie, la clé de la série, ça va être un certain Kelly Oubre Jr. qui risque de faire un gros taf de sap, qui aura à faire un gros taf de sap défensivement. Voilà, et c'est surtout, je pense, la touche supplémentaire qui manque peut-être à Philadelphie pour atteindre un cap. Sachant qu'il y a aussi un certain Buddy Hill qui est arrivé entre temps et qui peut apporter du shoot très fiable à longue distance.
Il faut qu'il le fasse.
Ouais, bah, de toute façon, il n'aura pas le choix. Et comme d'habitude, Jason Tatum, on attend que ce soit The Dog et il ne le sera pas. Voilà, merci, au revoir.
Oh, pas donc
là,
sur les problèmes.
Pour toi, c'est quoi, c'est fini combien?
4-3. 4-3 en 7.
4-3.
Ouais.
Okay.
Moi, je veux juste rappeler à nos chers auditeurs. Que la consommation de drogue est interdite sur le sol français, d'accord, donc il faut surtout pas toucher à ça. Et Boston est éliminé au premier tour. Il n'y a aucun monde où ça passe.
Voilà. Excuse-moi, mais on va à la
sol. Sur le sol où je suis, c'est peine de mort.
la terre des hommes, putain. Alors qu'à l'Assemblée nationale française, il y a certains qui consomment. Bon, j'ai une terre.
Oh, bref.
Non. C'est... Déjà, les Sixers, qu'ils arrivent au game 7. Non, Boston n'a pas le droit déjà. Rien qu'envisager un match 6.
C'est sûr.
Ils n'ont pas le droit.
Ah, bah, c'est sûr que si Boston en concède déjà rien que 2, va falloir commencer à parler, hein, parce que la suite, ça va être compliqué, je pense, pour eux. Mais bon, bref, voilà, c'était mon pronostic, en tout cas, sur cette série. Passons sur le...
Intéressant, purée.
Oui, ça risque d'être intéressant, en effet. Et dernière affiche à l'Est, avant qu'on passe à l'Ouest. New York, alors moi, de mon côté, c'était New York-Miami. Donc, en tout cas, 2 contre 7. Vous aviez quoi, déjà?
New York-Philly, de mon côté, et 4-3 New York.
Mais pareil. Et... Okay. Ça, c'est les grands esprits qui se rencontrent, j'ai envie de te dire.
Voilà, là, voilà.
En fait, je suis bête. J'avais mis le hit en 7.
Ah, vas-y, toi.
Oh là là.
Ah oui. Bah oui, j'avais mis le hit en 7 au début, n'importe quoi. Bah, si le hit affronte les New York.
Philadelphie.
Tu disais, Rafi, que
ouais, exactement.
La consommation
Merci,
de drogue sur
ça.
Ton territoire, c'était puni la peine de mort.
Mais je suis tout complètement débile. Exactement. Pour moi. Le hit frappe les Sixers play-in. Donc, le hit bat pour moi New York au premier tour.
Combien?
Mais non. Si, 4-2. Attends, t'as dit que le hit est appelé Sixers, t'as dit ça.
Ouais.
Donc, du coup, c'est les Sixers qui sortent face à Chicago.
Exact.
Oh putain, oh, vas-y.
Ok, d'accord, ok.
Allez, vas-y.
Ah, t'es d'accord avec moi, Rafik?
Non, ok. Ah.
Il a juste dit ok, passons.
Ok, next.
Ouais, pour moi, les Bulls, en tout cas, ils sont 8e. Et en 7e, c'est les Sixers. Et les Sixers. N'importe quoi. 7e, c'est le Heat, merde. Le Heat est 7e et ils battent New York. Merci, 4-2.
Ouh, ok.
Ah, bah là, je suis d'accord avec Damas. Moi aussi, le Heat tape New York. 4-3.
Ok. Ah, on se rejoint, Rafik, alors. Moi, j'ai mis Miami 4-3 aussi.
Ouais, il faut pas que New York s'étende dans la série face au Heat s'ils veulent passer.
Pourtant, ma plus grosse déception, hein, pour le coup, hein, étant nouveau bandeur de New York, je.
Ah, désolé, mais... Brice.
Mais moi
mais je re... Non, moi, je parle je... de. Non, je parle de moi.
Je parle de moi. Je trouve que Miami a une équipe plus intéressante que l'année dernière.
Ah ouais?
Tu différent. Un bon,
courageux. Hein.
Moi, je trouve qu'un bon, ils ont un meilleur bon que l'année dernière. L'année dernière, quand même, le bon était beaucoup plus court. Hein. C'était quoi ? C'était Cody Zeller, Ice Smith. T'as eu quoi ? T'as vu ?
Cody Martin.
Ouais. Bon, t'as
Cody Martin, il était dans le 5 parce que Hero s'est blessé. Le 5, c'était.
Ah oui, t'as Struss.
Et Laurie, c'était Kyle Laurie.
Oui, il y avait Kyle Laurie, il y avait Max Struss, il y avait qui
Struss, il était titulaire. Hein.
Ouais.
C'était quoi ça faisait,
Robinson. Laurie.
Duncan Robinson.
Alors oui, c'était. Alors des fois, il alternait, des fois, il mettait Robinson titulaire ou des fois, c'était Struss titulaire.
C'était ça.
Laurie, Struss, Martin, Butler, Adebayo.
Exactement. Et le bon, c'était Ice Smith, Cody Zeller, Kevin Love et du coup, Robinson. Et cette saison, ils ont Robinson
Jovic,
sur le banc.
Vasquez.
Jovic, il est titulaire, Jovic.
Vasquez qui est là.
Le rookie, là, qui est intéressant. Kevin Love, maintenant qui est mieux inséré dans le...
Un peu plus de minutes.
Exactement. Parce que l'année dernière, il venait en cours de saison. Ice Smith, qui est bien meilleur que la saison dernière, il a fait des
progrès. Il a progressé.
Par rapport à la saison dernière.
Plus intéressant.
Et il me semble qu'il y a un autre joueur, je ne dis pas de bêtises, je regarde ça tout de suite, mais j'ai l'impression qu'ils ont vraiment une meilleure team. Bah, déjà, c'est un peu... Après, il y a Rozier, qui est peut-être un...
Il y a Rozier aussi, ouais.
C'est un...
Ouais, Terry Rozier.
Josh Richardson.
Ouais.
C'est un upgrade, Terry Rozier.
Richardson est blessé pour la fin de saison. C'est fini. C'est fini, Richardson.
Qui ?
Il est blessé pour la fin de saison.
Il n'y a pas Tim Mills aussi, non ? Il n'y a pas Tim Mills aussi.
Ouais, il est là.
Ouais,
il est là.
Ouais.
Delon White, c'est intéressant. Delon White, moi,
c'est intéressant pour la défense, Delon White. C'est un défunt. Très bon défenseur.
Delon White, pour moi, c'est un bon joueur de basket. Donc, franchement, je trouve qu'ils ont une équipe plus intéressante que l'année dernière, franchement.
Ouais, c'est pas droit de le penser.
4-3 donc pour Miami face à New York. Quelqu'un ne s'est pas encore exprimé ? Ou c'est bon ?
Non, je crois que c'est bon.
Ok.
On va avancer.
Eh ben écoutez, très bien.
C'est-à-dire, on va avoir un Milwaukee-Miami là.
Putain, donc ça veut dire, ouais, moi de mon côté, putain, c'est Philadelphie-Cleveland et Milwaukee-Miami. La vie est une fête, n'oubliez pas, messieurs, dames. Du côté de l'Ouest, alors le play-in. Donc, play-in, premier match, New Orleans-Pelicans, Los Angeles-Lakers. Et deuxième match, Sacramento-Kings-Golden State-Warriors. Vous voyez qui passer, messieurs, sur ces deux matchs ?
Les Pelicans battent les Lakers.
Ok.
Arrêtez de rigoler. Et je parlais comme les professeurs à l'école. Ouais, je mets les Pelicans gagnants.
Okay.
Ils ont pris la gifle qu'on a vue, nous tous. Ils ne peuvent pas se permettre de faire des matchs comme
c'est
ça.
À fois domicile deux.
Non, le match, il a Louisiane.
Alors, c'est le match, oui, est à New Orleans et le match à Sacramento.
Ok. En plus, il me semble que New Orleans, c'est à domicile, c'est pas ouf.
Non, ils sont pas bons. Ils ont un bilan positif, c'est vrai, mais ils ont beaucoup de défaites.
Un bilan positif, ça veut rien dire, tu vois.
Ça veut rien dire.
Tu fais 41 matchs à domicile, tu peux être en 21-20, t'es positif, mais c'est dégueulasse à domicile.
C'est dégoûtant, tu vas pas en playoff avec un bilan pareil. Et de l'autre côté, Rafik, Vlad, pour moi, tu mets les Warriors qui battent les Sacto.
Ok, donc ce serait Lakers-Warriors ensuite.
Pour le match clé, ouais.
Ok, très bien, messieurs. Qui d'autre ?
Je me prononce.
Ok.
Personnellement, ça sera les Lakers qui froissent la racaille de New Orleans.
Bien sûr. Dehors.
Dehors.
Où ta cause, Zion.
Voilà. Donc,
où ta cause les...
Du coup, les Lakers qui affronteront Denver, du coup. Et les Kings qui renvoient Steve Kerr et toute sa bande en vacances. Et les Kings qui battent après New Orleans.
Ouh.
Donc, les Kings face à OKC au deuxième tour.
Vas-y, Damas, du coup, vu que t'étais sur...
Il abuse avec son Kings, parce que les Kings, défensivement, au niveau du banc, ça va plus du tout. Depuis que Malik Monk est blessé...
Donc ça, c'est qui, les Kings ou Warriors ? Les Kings ou Warriors, c'est qui passe ?
Entre Warriors et Lakers ? Entre Warriors et Lakers pour le match, pour la position 8 ?
Oui.
Ça.
Les Lakers vont passer, ces couillons.
Ok.
Putain.
Ok.
Je les déteste, mais ils vont passer.
Vas-y, Rafik.
Alors moi, Lakers, Pelicans, Lakers facilement, Game 4, c'est genre début du quatrième quart-temps, le match est fini.
Mm-hmm.
et Kings-Warriors-Warriors. Et okay. Après, le match entre Warriors, Pelicans-Warriors encore.
Ouais, ok.
Donc, mon Warriors 8 et Lakers 7.
Ok. Ah.
Bah, pour moi, c'est forcément les Lakers hein, qui, comme vous l'avez dit, vont bien froisser nos chers Pelicans. Derrière, entre les Kings et les Warriors, bah, comme Lucas, les Kings vont froisser Steve Kerr et la compagnie, là, et les Warriors vont être en vacances. Compagnie. Et du coup, derrière, ça me fait un match entre les Pels et les Kings. Et par contre, je vois les Pels passer.
Les Pels sont la meilleure équipe à l'extérieur de la ligue.
Lakers 7 et Pels 8.
Comme après l'égalité avec les Celtics, j'avais vu le classement. Les Pels à l'extérieur, c'est pas mal du tout. Mais...
Ouais. Bon, faut voir. Alors, pour
Sakto, ça passe plus.
Sakto, ouais, je pense que Sakto, malheureusement, pourtant, je les voyais très haut aussi en début de saison. Ils m'ont clairement déçu.
Ouais.
Bon, les Lakers, ils vont rouler sur New Orleans, hein, de toute façon, au vu des confrontations qu'il y a eu cette saison. Mais bien sûr, les Lakers, ils vont leur rouler dessus. Déjà, ils leur ont roulé dessus il y a deux jours.
Arrêtez de pleurer.
Ils l'ont répété ce soir.
Ah oui, mais je pense que c'est.
Ils l'ont roulé quasiment toute la saison. Hein.
Bah oui.
C'est faux.
Saison, c'était des grosses baffes des Lakers.
Mais,
si.
Mais au play-in, enfin à l'in-season, ils leur ont mis une claque. Ils leur ont mis 45 points.
Ouais, mais les Lakers, c'est leur Coupe de la Ligue là.
Non, mais peu importe. C'est un match. Ça reste un match qui compte dans la saison régulière. Peu importe.
Ouais.
Non, mais
ouais.
C'est simple. Damaz, les Lakers, il y a trois matchs où les Lakers ont gagné de au moins 15 points les Pelicans.
Ah oui. Ah non, pour moi, c'est. Enfin, pour moi, c'est sans appel. Pour moi, les Lakers.
Mais c'est devrait, mon joker à l'ouest.
Devrait largement passer. Ensuite, le match Warriors-Kings. Désolé les Kings, hein, mais les Warriors, pour moi, ils passent. Sur un match comme ça, un match coup près aussi, ça passe. Et derrière, ils gagnent aussi contre New Orleans. Donc, Lakers en 7 et Warriors en 8.
Oh, mon rêve de voir les Warriors perdre face aux Kings.
Non, mais les Warriors, à l'extérieur. Dans les veines. Les Warriors, c'est très sérieux, hein. Ah, je pense que les Warriors, c'est très, très sérieux.
Mais les Warriors, la saison des Warriors tout court pue du cul, il faut dire.
Ouais. Non, mais elle est claquée, c'est
elle est dégueulasse.
Ils terminent bien.
Ils terminent bien.
Mais,
c'est bien de terminer bien, quand même.
Oui, ah, d'accord, oui. Mais je vois pas hors Curry, qui reste Curry, et qui peut tout faire sur un match.
Ouais.
Je vois pas comment... les Warriors peuvent apporter ce truc qui va les sortir du lot, tu vois, ce qu'ils avaient avant, tu pouvais dire ce que tu voulais, c'était les Warriors, il n'y avait pas de débat. Maintenant, je ne les vois plus du tout comme ça, et je ne les vois pas commencer, à la limite, s'ils sortent les Kings, ils perdront pour moi le match d'après, que ce soit contre les Pels ou contre les Lakers.
Je suis d'accord que ce n'est pas les Warriors de il y a quelques années, mais... Et ça reste toujours quand même une équipe un peu plus taillée pour les playoffs que pour la saison régulière.
L'expérience, bien sûr.
Et après, hein, franchement, t'as des joueurs qui y a des joueurs qui vont avoir des rôles, qui peuvent avoir des petits rôles et qui peuvent un peu déranger les équipes qui vont affronter. Je pense à au nouveau là, Jackson Davis, hein, qui prend pas mal de rebonds. Hein. Qui se bat beaucoup au rebond, t'as le petit Podziemski. Bon, je pense qu'il aura du temps de jeu, mais il peut toujours être. Il y a Kuminga, franchement, c'est un bon joueur.
Très belle progression. Puis, les Warriors, ça va être important pour les Kings d'être très performants au début de match. Si c'est pas le cas, ça va être terminé. Parce que le Chris Murray, là, il patauge un petit peu sur la fin de saison. Les Kings ont perdu beaucoup de matchs.
Kylian Murray.
Chris,
c'est son frère.
C'est son frère, ouais.
Ouais, désolé, excusez-moi.
C'est important.
Pour changer. Merci. Mais le Murray, là, franchement. Et puis, il y a un point qui est important côté Kings. L'axe Fox-Sabonis a baissé en régime. Ils ont baissé un petit peu en régime, les coucous, là.
La clé, ce sera Sabonis, hein, de toute façon.
Sabonis, mais il ne faut pas dormir sur Sabonis, s'il vous plaît. Ouais. On peut critiquer les
Draymond
Kings.
Green peut très bien l'arrêter. Draymond Green peut très bien
se faire. On se rappelle que Looney a donné énormément de fil à retordre à Sabonis.
Rebond,
hein.
Au rebond, bien sûr.
Oui, il avait fait des matchs à 20 rebonds, 21 rebonds, le Looney.
Oui.
Parce que Looney...
Vas-y, Rafik.
Ouais, Damaz. Non, parce qu'en fait, le Looney en saison régulière, en fait, c'est pas là où on l'attend, le Looney en saison régulière. C'est pas un joueur de saison régulière, c'est un joueur de rôle pendant des playoffs.
Mm-hmm. Ouais. et les Warriors n'ont pas besoin d'une grande série pour se relancer. Donc le fait qu'ils aient eu ces petites victoires en fin de saison, notamment à l'extérieur, ils sont allés gagner aux Lakers, ils sont partis gagner aux Magic, des équipes qui avaient le mouvement en poupe, ils ont gagné pas mal de matchs à l'extérieur, dans une configuration où les Kings ont perdu à domicile. Attendez les gars, l'an dernier au premier tour de playoff, là, où, en étant troisième à l'Ouest, mais les Warriors se souviennent très bien de ça. Donc non, terminé ça.
Non, ce truc que peuvent avoir les Warriors cette année, c'est le truc qu'avait Miami l'année dernière. C'est-à-dire, rien à perdre, on donne tout, et plus ça va, mais plus ils prennent en gabarit, entre guillemets, et on les verra. Enfin, c'est ce qui peut arriver, mais je ne le vois pas du tout comme ça. Enfin, je ne voyais pas Miami l'année dernière faire le run qu'ils ont fait, loin de là. Mais aujourd'hui, les Warriors n'ont pas les forces, pour moi, pour aller chercher même les Lakers. Pour moi, les Lakers sont beaucoup, beaucoup plus armés pour faire quelque chose en playoff que les Warriors. Donc, s'ils vont chercher un match, ça sera les Kings, mais pas plus pour moi.
Ok, bon bah écoutez, ça marche pour ce play-in. Alors du coup, si on tombe, on va les faire ouais, ordre par ordre de classement. Donc on serait, alors moi de mon côté, le match 1-8, donc ce serait Oklahoma face à Golden State. Pour vous, ce serait, je vous laisse faire vos pronostics, messieurs.
Ok, je peux commencer. Moi c'est pareil que toi, c'est Golden State Oklahoma. Mm-hmm. Et c'est 4-2 Warriors.
Ah
wow.
Let's go!
On n'a pas vu la même saison, les gars, ou quoi?
Oh là 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 là.
Est-ce mais que je regarde le bon sport, même?
Putain, les gars, mais non!
Rafik,
hey,
on a vu.
Rafik, tu veux savoir
on
quoi?
A vu. Quoi?
J'ai mis 4 ans. Il a la même chose.
Ah oui, bien sûr. Allez.
Merci.
Allez,
c'est bon.
Merci, c'était forever. On va.
Hey, mais à vous entendre, à vous
oh,
entendre. Hey, à vous entendre, on va pas aller au bureau le matin, les gars. Parce que toute la nuit, on sera devant la télé avec vos pronostics. Ce premier tour va être un régal.
Il y a moyen de se marrer. Franchement, il y a moyen de se marrer.
Il n'y aura pas moyen d'aller au bureau le lendemain matin. On va tous kiffer.
Je pense. Mais... Alors, pourtant,
on connaît les Warriors. Ouais. On connaît leur capacité à gagner des matchs 1-8 en étant 8.
Oui.
C'est un sujet qu'on a traité dans Team Duncast.
Oui.
Ils sont capables de le refaire.
Bah, je pense que malheureusement, ça va rejoindre un petit peu... ce qu'on disait lors d'un de nos précédents épisodes, Oklahoma, c'est mignon en saison régulière, mais ils vont être attendus surtout en play-off. Et je pense que Golden State, ce serait le pire des tirages pour eux. Je pense que... Enfin, là, t'as vraiment une opposition de style entre une équipe, en effet, qui est toute jeune. Alors attention, qui peut prouver énormément de choses. Hein. On ne sait pas hein, ce que l'avenir peut réserver. Mais Golden State, c'est beaucoup... En fait, c'est l'équipe qui a beaucoup trop d'expérience sur laquelle il ne faut pas tomber. Et je pense que de toute façon, que ce soit Golden State ou les Lakers, ils ne passent pas.
Va falloir que OKC mette beaucoup de rythme et les rentrer dans physiquement, les Warriors, pour pouvoir les abattre. Oui. Comment les Warriors, ils ont perdu l'an passé face aux Lakers? C'est physiquement.
Physique, bien sûr.
Attendez, mais il y a des ailiers aux Lakers qui peuvent gonfler beaucoup de gens. Eh ben, va falloir que Jalen Williams, notamment lui... qui a fini avec 19 points de moyenne, avec 41% à 3 points, soit vraiment agressif pour accompagner SGA dans la mission à faire plier cette équipe. Donc, mais je vois quand même les Warriors passer. Allez, 4-2.
Allez, très bien.
4-2. Désolé.
Kevin et Lucas, il reste...
Mais attends, mais non, mais t'as, comment ça, t'as pas Warriors
Oui, moi, j'ai pas ma Warriors, mais par rapport à ton pronostic à toi.
Ah, mais donne ton pronostic à toi, alors, d'abord.
Bah, moi, je mets les Lakers qui les battent aussi 4-2. Voire 1-4.
Oh, voire 1-4.
C'est possible.
Mais on parle des Lakers ou on parle des Bulls de 93? Je ne comprends plus rien, moi.
Non, mais en fait, l'Ouest nous a trompé toute la saison. Les petits marchés qui ont régné en conférence Ouest, c'est... Non. Attendez les Suns, attendez, on va en parler après.
Allez-y, Kevin, okay. Kevin et Lucas.
Moi, tout à l'heure, je me suis trompé, j'ai dit que les Kings passaient contre les Pels au deuxième match du play-in. Sur mon bracket, j'ai mis l'inverse, du coup. Donc, j'ai mis les Pels qui affrontent OKC.
Ok.
Donc, c'est exactement tout pareil que Kevin, du coup. Et du coup, j'ai mis OKC qui bat les Pels 4-2.
D'accord.
Voilà,
pareil. Tout pareil.
Nickel.
Je commence à croire que t'as copié pour moi. Vraiment, depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de choses.
Et du coup, sur l'autre match, c'est Denver-Lakers.
Ouais.
Et j'ai mis 4-1 Denver.
Même moi, j'ai mis 4-1 Denver.
Mais arrête.
Des Lakers.
Ouais,
c'est bon, arrêtez. Alors, il y a vraiment eu rien. On s'est pas concerté.
Non, de ouf, par contre, c'est vrai, il y a aucune concertation.
Bah, allons-y, vu qu'on est sur, sur la série de Denver. Allez-y, messieurs.
Bah ouais, les Nuggets, ils sont champions en titre et on a vu l'année dernière dans la finale de conf face aux Lakers. Je pense que les Lakers sont meilleurs offensivement mais moins bons défensivement, ce qui fait que globalement tu vas t'équilibrer, notamment l'absence de Jared Vanderbilt, elle va peser énormément dans ce genre de match-up. Je pense que, comme l'année dernière, pour la finale de conf, ça va être hyper serré, mais que, encore une fois, ce qui va faire la différence, ça va être l'exécution de fin de match des Nuggets, où ils sont tout simplement injouables là-dessus. J'hésitais 4-1 ou 4-2. Franchement, les deux, ça peut passer. J'ai mis un petit avantage 4-1, avec du coup les Nuggets qui finissent chez eux à domicile.
Sachant qu'il y a potentiellement des chances que Jared Vanderbilt revienne pendant le premier tour.
Bah, ce serait une très bonne nouvelle pour les Lakers.
Condition, hein. Après, il faudra voir aussi.
Oui, bien sûr.
Ouais, mais sur 15 minutes, il peut t'emmerder, dévier des ballons.
Oui, bien sûr, ouais.
Tout ça, c'est des choses qu'on peut en play-off, hein.
C'est peut-être ce qui peut faire là, le 4-2, du coup.
Vas-y, on a Lucas et Kevin qui disent 4-1 Denver contre les Lakers, c'est ça?
Ouais.
Ouais.
Moi, c'est 4-2 Denver Lakers.
Ok.
Moi, Denver Pelicans, puisque je suis seul à avoir misé sur les Pelicans, gagnant des Lakers sur le play-in. 4-2 Denver, malheureusement.
Bah pour moi, ouais, Denver, du coup, c'est Denver Lakers. Pour moi,
c'est clair.
Si tu me dis Lakers, Vlad, ça va pas le faire.
Non,
parce que t'as déjà enlevé Boston.
Laisse-moi
si t'enlèves aussi Denver.
Laisse-moi m'exprimer. Tu
commences à m'énerver.
Laisse-moi m'exprimer.
M'énerver.
Non, mais oh. Non, je pense que Denver passe, mais pour moi, les Lakers sont capables de pousser en 7. Surtout vis-à-vis du banc, qui pour moi est un peu plus faible du côté de Denver. Et on a vu l'année dernière, c'est le banc qui a fait la différence surtout face aux Lakers.
Ouais, clairement.
Et ouais, je pense que les Lakers sont capables de pousser, je pense, jusqu'au match 7. Mais ouais, je pense que ce sera encore un petit peu trop court pour Denver. Et puis, bon, bah, Jokic, à mon avis, voilà, on sait très bien qu'Anthony Davis n'est pas fan des pivots européens, donc on sait ce que ça va donner derrière.
Anthony frappe des viscées, là, hein, pour le coup.
Ouais. Ok, très bien. Bon, pour cette série, ensuite, on aura donc, alors là, le duel de la mort.
Je sens qu'on va rigoler, là.
Voilà.
Les Clippers face aux Mavericks.
Il faut que je me lève, moi.
Les Clippers face aux Mavericks. Bah, allez-y, messieurs, lâchez-vous.
Qui commence?
Bah, je pense qu'il faut laisser l'honneur à celui qui est en train de montrer son maillot, là.
Est-ce qu'il y a besoin de parler? Je pense qu'on peut passer au match suivant. Les Dallas Mavericks vont gagner 4-2 sans fioriture. Merci, au revoir.
4-2.
Ouais. Voilà. La revanche, la double revanche, parce qu'on a perdu deux fois contre les Clippers.
Ouais. En 2021 aussi. 2021.
Voilà. Ouais. Une fois 4-2 et une fois 4-3. On a un truc qui s'appelle, un dieu, que dis-je.
Vas-y.
Luka Doncic qui fait, excusez-moi messieurs, une année gotesse, c'est-à-dire qu'on est sur la deuxième meilleure performance points, assists et rebonds par game de l'histoire derrière monsieur Will Chamberlain. Voilà. Donc si il y a pas une année où Luka Doncic va froisser les Clippers en playoff, avec ce qui s'est passé dans le passé et avec la forme qu'il a cette saison, si c'est pas cette année, je pense que je peux juste sauter du sixième étage où je me trouve et je ne peux plus rien espérer de cette équipe. Non, franchement, que ce soit collectif avec les recrutements de PJ Washington et Gafford, que ce soit au niveau moral avec le groupe qu'a construit Dallas, que ce soit en Kyrie qu'on voit comme un papa qui quand on l'a vu lorsqu'il met ses points et qu'il fait ouais il reste une possession et tout, on avait plein de trucs comme ça où Kyrie est vraiment à intégrer le groupe parfaitement et qui même est super clutch, enfin qui est meilleur que lui dans le quatrième carton.
Ah, tu vas finir.
Je peux parler comme ça pendant deux heures, d'accord?
Voilà. C'est bon, bref.
4-2.
Dallas 4-2.
4-2 pour Dallas, très bien. Continuez, monsieur.
En fait, son pronostic, il n'est pas si faux que ça. Hein. Dallas peut très bien mettre 4-2 face aux Clippers, mais pour ma part, je mets les Clippers devant. mm-hmm. avec une meilleure
Combien
présence.
Combien
4-3.
Ok.
Je mets 4-3 avec un Paul George de gala, un retour de Kawhi Leonard. Kawhi Leonard. Il y a qu'un H. Hein.
Kawhi. Kawhi Leonard.
Playoff P. Playoff P, faut pas oublier.
Non, mais arrêtez vos merdes. C'est pas. Il y a plusieurs mecs qui ont déjà dindé en playoff. Pourquoi vous clashez Paul George comme ça sur une saison?
En vrai, c'est pour moi, c'est un peu injustifié.
C'est réducteur en fait.
Le playoff. Non, le playoff. En fait, le mythe de play. Enfin, le playoff P. Tout le monde lui tombe dessus parce qu'il a déclaré ça et il s'est dindé la série d'après. C'est juste ça. Le truc.
Voilà. Il a merdé.
Après, ça va. C'est pas Embiid quoi.
Ah, merci.
Non mais bien joué Rafik, sans compter que Paul George il a plusieurs finales de conférence à son actif en étant leader de son équipe.
Oui.
Donc les autres même là fermés
avec
là.
Avec Indiana bon,
merci,
avec les
Rafik.
Clippers hein. Parce
merci,
que même avec les Clippers son Kawhi c'est lui qui avait amené
2021
les Clippers en finale de conférence. Oui, contre les Suns, et je vous rappelle les Suns quand même c'était pas si simple que ça.
Merci Rafik.
Il y a des matchs qui franchement ça tombe côté Suns, mais franchement, c'était juste. Hein.
Merci Rafik. Oh là là là, mais vraiment.
Doncic a une finale de conf aussi avec Dwight Powell et Reggie Bullock dans le 5. Hein.
Bon, est-ce qu'on va pas refaire l'historique là?
Ouais.
Bon. Allez, passons. Parce que là, nos auditeurs, là, ils commencent à ramer là sur la durée.
4-2 Clippers pour moi, parce qu'il y a de meilleurs atouts côté Clippers.
4-3, tu veux dire?
Ouais, 4-3 Clippers. Merci Rafik.
Ok, très bien, Rafik.
Moi, 4-2 Dallas.
Ok, d'accord. Très bien.
Et pour moi, ça sera un 4-2 Dallas aussi.
Il y a le MVP. Voilà.
Bien sûr.
Vas-y, Kevin.
4-2 Dallas également pour moi. Il n'y a pas photo pour moi sur les deux dynamiques. Et plus l'absence peut-être de Kawhi Leonard, tout ça, ça fait que Dallas sort les Clippers.
Ok, bah.
Vas-y, Vlad, fais top place maintenant.
Bah, allez, pour moi, ça pousse en 7 et les Clippers gagneront à domicile.
Ah là, putain, c'était sûr.
Lui. Aïe, aïe, aïe.
Non, mais. Pourquoi pour...
Gros hater là.
Non, mais qu'est-ce qu'il hater? C'est bon.
Mais non.
Non, en vrai, ça passe. Quel hater?
À cette heure-ci, donne-moi une année où les Clippers ne passent pas le premier tour.
Mais en vrai, les Clippers sont une vraie team.
Cette année, 2024.
2024.
Bon. Ils ont une vraie team, les Clippers.
Eh bah, écoute, c'est tout le mal que je te souhaite, Lucas. Dernier, allez, l'entertainment, Minnesota Phoenix.
4-3 Phoenix.
4-2 Phoenix.
Ah, 4-2 Phoenix, je suis d'accord.
4-3 Wolves.
Mais oui. Franchement, c'est 4-2, je suis gentil.
Ouais, je pense 4-2 aussi, ouais.
Non, pour moi, les Wolves vont passer.
Oh.
Bah, je suis d'accord.
Les Wolves vont passer parce qu'ils ont une présence défensive, une présence physique que n'a pas les Suns.
Et si, je suis d'accord.
Sans compter qu'il y a plusieurs modèles qui peuvent ralentir Kevin Durant et lui rentrer dedans physiquement, même si c'est un joueur exceptionnel. Attention, c'est des Suns fans, je ne vais pas pleurer non plus. Mais je mets les Wolves devant parce que Anthony Edwards, que je n'aime pas.
Si KD ralentit, tu as encore Booker.
Mais
t'as
oui.
Encore Bradley Beal.
Et Beal qui revient bien, hein.
Et tu reviens bien. Et tu as Grayson Allen.
Ah ben on y vient.
T'as Grayson Allen. En fait, je suis d'accord avec toi sur le fait que à l'intérieur, ils peuvent se faire massacrer les Suns. On a Nurkic et Bol Bol contre. Je suis pas sûr si Bol Bol il va être dans la rotation.
Ouais.
Contre Gobert. Gobert, Nasrid et.
Ah, merci Rafik.
C'est une fin de tournage pour Rafik.
C'est pas grave, on
merci,
le reprendra.
C'était forever.
Alors, tout à fait. Bah, vas-y, enchaîne du coup, Damas, pour toi, Minnesota, donc qui passe?
Ouais, Minnesota qui passe 4-2.
Ok.
Vaut mieux pour eux gagner vite cette série si ça s'éteint, défaite.
Ok, très bien. Lucas, Kevin.
4-3 Sense pour moi, car Kevin Durant.
4-3
Sense. Et, et je pense que ça vient aussi, je pense que ça sera surtout parce que les Wolves ont cette capacité à se saboter eux-mêmes. Je vois, c'est le genre d'équipe à pouvoir, malheureusement, bien qu'ils ont une bonne défense, en attaque, s'ils n'ont pas un Edwards qui fait des flammes, et que t'as un Nasrid en sortie de banc qui te lâche des 3 points sortis de nulle part, ils ont cette capacité à pouvoir choke entre guillemets. Donc bien qu'ils aient fait une magnifique saison, les Wolves, je vois quand même les Suns passer, bien que ça me réjouit pas forcément. Voilà.
Très bien, Kevin.
Pour moi, du coup, c'est un 4-3 Minnesota. Tous les éléments qui ont été évoqués avant, notamment l'aspect physique, etc. Je vois un petit peu une série similaire par rapport à celle de l'année dernière entre les Nuggets et les Suns, où c'est-à-dire que tu as les Nuggets en fait, qui paraissent tout le temps au-dessus, mais en fait, il y a des coups d'éclat tellement incroyables au scoring de la part des Suns qu'ils arrivent à aller chercher ces matchs. J'en donne un de plus par rapport à l'année dernière où ils avaient perdu 4-2 face aux Nuggets. Là, ça fera 4-3, mais je pense qu'on sous-estime beaucoup la capacité des Wolves d'être une équipe parfaitement taillée pour les playoffs et pour jouer sur demi-terrain.
Et bah pour moi, donc pour clore, donc Phoenix qui passe sur le score de 4-2, tout simplement parce qu'une équipe où il y a Rudy Gobert, ça ne va pas super loin. Voilà, merci, ah salut.
Tu l'as dit, ouais, c'est une fête, la vie.
La vie est une fête, n'oubliez pas. Non, mais je pense que Minnesota, et puis on le voit aussi un peu sur la dynamique la fin de saison, c'est très compliqué. Je pense que ça commence un petit peu à tirer. Et en plus, sans Carl Anthony Towns, malgré tout...
Il est de retour, Kat.
Ah oui, c'est vrai, pardon. C'est vrai qu'il est de retour, autant pour moi.
Ouais, mais le match face au Suns, c'est significatif. Ça a été très dur.
Je pense que ça va être compliqué, ouais, quand même, pour Minnesota, donc... Je pense pour le coup que Phoenix passera comme ça. Ça respectera ma prédiction où Phoenix ne passait pas les demi-finales de conf face à Denver. Donc voilà pour cela. Très rapide, messieurs, histoire de pas être trop long. Starting Five, Cooper de Citron. Allez-y, lâchez-vous.
Jalen Brunson et Joker Jokic. Devant. Joker forcément. En 1, je mets Tyrese Maxey pour la magnifique série que font les Sixers sur cette fin de saison. Mm-hmm. Franchement, il faut quand même les placer dedans. LeBron James, que je mets aussi.
LeBron James.
Vous êtes malade, vous.
LeBron James.
Et Anthony Davis.
Anthony
Davis.
Je sais pas, vous voyez d'autres, messieurs?
Les Lakers n'ont pas autant leur place là-dedans.
Ils ont été très bons sur cette de dernière semaine. Et d'autant plus Davis en défense. Hein.
Deux victoires sur quatre matchs.
Ouais. Mais il y a plein de teams qui ont lâché l'Est hein, pour la fin.
Bah ouais.
Bah après, si vous n'avez pas. Si vous avez d'autres. Bon, après, voilà quoi. On peut rester. Bah moi, ouais. Je pense c'est pas. Bon. Ouais. J'ai pas grand chose à dire. C'est vrai que là, le starting five de fin de saison, on s'en fout un peu maintenant.
Ouais. Bon. Il y a le Thunder dans tous les cas qu'il faut mettre.
Ah, on peut mettre le Thunder. On peut mettre
le Thunder qui allait chercher la première place en étant invaincu sur les cinq derniers matchs.
Tout à fait. Bah écoutez, allez, on part sur Jokic, Brunson, Maxey. Allez, LeBron plutôt qu'Anthony Davis, c'est pour moi. Et, et l'équipe du Thunder, je pense que c'est pas mal.
Allez. Toujours placer ton barbu. Enfin, c'est pas grave. Oui. C'est pas grave.
Bonjour, oui, c'est moi qui dirige le podcast. Bonjour. Est-ce que vous avez des coupeurs de citron? Moi, je mets les Cavs. Hein. Encore une fois.
Non, mais franchement, ça fait quand même pas mal de semaines qu'on met les Cavs. Alors, je me rappelle que j'avais soumis l'idée de commencer à mettre les Cavs en coupeurs de citron. Ouais. Parce que ça allait pas du tout et ça continue à ne pas aller du tout.
Ah, je vais mettre les Pelicans aussi qui ont fait un match catastrophique face aux Lakers. Qui ont fait un bon match, attention, hein, c'est pas bluff, ils ont été mauvais parce que non, les Lakers ont été très bons défensivement. Mais franchement, ce qu'ils nous ont fait, les Pelicans, putain, et puis les Hawks aussi, 80 points encaissants pendant la mi-temps alors que t'as un match.
Oui, c'est ce que je disais. Que les Hawks.
Cavs, Pels, Hawks.
En sachant que les Cavs, c'est quand même deux victoires en quatre matchs. Hein. Dont victoire face aux Pacers. Si je me souviens bien. Non, moi, c'est les Hawks surtout que je voulais bien marquer au fer rouge. Orlando qui a failli... Heureusement qu'il y a cette victoire face aux Bucks. Parce que sinon...
Il fallait sortir du play. Enfin, il fallait se retrouver dans le play-in.
C'était désastreux.
Ouais.
Et sinon, qu'est-ce qu'on a de beau
Moi, j'en ai un, si ça vous dit.
Uh-huh.
Bon, on va pas changer d'habitude, on va mettre Scoot Anderson pour le plaisir.
Allez. Oh. Portland.
C'est même plus mérité, en vrai.
Portland, on le rappelle, dernier de conférence ouest. Derrière les Spurs.
Ah, c'est moche.
Voilà. Ouais.
C'est moche, c'est moche. Bon, bah écoutez, très bien, messieurs. Je vous propose Je pense qu'on a fait un bon épisode. On n'est pas très, très loin, je pense, des 2 heures. En tout cas, on est sur une bonne 1h40. Je pense que c'est pas mal. N'hésitez pas à nous faire part aussi de vos pronostics hein, pour le premier tour. Hein. On fera ensuite les pronostics pour les tours suivants par la suite. Si cet épisode, bien sûr, vous a plu, hein, n'hésitez pas aussi à nous le faire savoir, hein, comme d'habitude, en mettant 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée, histoire de nous donner un petit coup de pouce pour le référencement. Cela fait toujours plaisir. Hein. Vous pouvez également retrouver Forever sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur TikTok, le compte Forever Podcast, ainsi qu'Instagram, le compte Forever le Podcast, où vous retrouverez donc du contenu quotidiennement. Merci messieurs. On se dit à mardi,
à toi,
mercredi prochain. Et puis ouais, surtout, allez Philadelphie. Et n'oubliez pas que la vie est une fête.
Les petits Sixers, let's go. Hein.
Allez, ciao, ciao.
Ciao, ciao. Merci. Ciao.